Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pino. Merci d'être là. Hey, je suis tellement heureux là. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo de son chat qui fait le saut quand je commence mon podcast. C'est la preuve que je dois jamais arrêter de faire mon cri de début de podcast. Ça m'a rendu heureux là. J'invite les gens à aller voir ça sur les médias sociaux. Le chat, il graffigne la porte de poêle. Un bonheur. Hey, merci de nous écouter. Je le répète tout le temps, puis à chaque début de podcast, je vous demande, vous nous écoutez où, dans quelles conditions, qu'est-ce que vous faites. Là, c'est le temps des fêtes qui approche. Là. Avez-vous des traditions bizarres? Là? Faites-vous genre des préparations? Faites-vous un pain sandwich? Si oui, là, vous êtes spécial. Je vais rester poli parce que vous écoutez le podcast, j'apprécie que vous soyez là, mais c'est dégueulasse de la petite pain sandwich. Mais sinon, vivez-vous ça, vous autres, du lait de poule? Faites-vous des trucs? Regarde, votre tourtière, c'est une tourtière qui est respectable ou c'est celle que si tu dis le mot tourtière, le monde du lac Saint-Jean débarque et vous crée une volée? Je veux tout savoir. Comptez-moi ça en commentaire. Je vais partir l'épisode tout de suite parce que je suis tellement content de recevoir mon invité d'aujourd'hui. Et on se mentira pas, elle l'admire au plus haut point. Une idole de jeunesse, c'est un humoriste pour qui j'ai un grand respect. C'est l'humoriste qui m'a donné la chance de faire mon tout premier gala juste pour rire à vie. Ça, t'oublies pas ça, là. Quand tu veux faire de l'humour dans la vie, là, un rêve de petit gars, c'est d'aller à la place des arts dans un gala juste pour rire. Je l'ai fait grâce à lui. Et cette année, j'ai également eu la chance de participer à son premier gala comédia qu'il animait. C'est un honneur de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Laurent Paquin. Laurent Paquin! Ah!
Moi aussi, je fais mon cri.
On va le tuer, ce chat-là. Comment ça va?
Ça va, mais moi, j'aime ça, le pain sandwich. Bon.
Regarde.
Désolé, je te déçois, je sais.
Est-ce que t'en fais un?
Non, j'ai jamais fait ça. Okay. Faudrait que je trouve c'est parce qu'il faut trouver une place qui fait du pain coupé sur le long.
Ouais, c'est ça, plus tough.
Ce qui n'est pas si évident. Ouais. Puis, mais ça dépend ce que tu mets dans ton pain sandwich. Il y en a qui mettent du thon, ça c'est dégueulasse. Tu ne mélanges pas du thon avec du jambon, des œufs et du poulet, ça c'est weird. Mais en tout cas, on fera pas une heure là-dessus.
Mon premier, c'est parce que l'histoire aussi, c'est que moi, mon premier pain sandwich auquel j'ai goûté, je pensais qu'à la table, c'était du gâteau aux carottes.
Ah, ouais.
Fait que tu sais, là, tu descends
comme une
bouchée.
Déception.
Finalement, il y a trois sortes de condiments de sandwich uniques, là. Mais non, j'en ai fait un avec Pasquale Vary l'hiver dernier pour une émission de cuisine comico-comique. Puis Colin, il m'a fait apprécier le pain sandwich adapté à Guillaume Pinault. Là.
Okay, hein. Quand c'est bien fait!
Mais regarde,
c'est comme le gâteau aux fruits. C'est plate à mort, mais à un moment donné, tu tombes sur un gâteau aux fruits que tu trouves bon, puis tu fais « Ah, vas-y, je pourrais peut-être aimer le gâteau aux fruits. »
Ça se peut-tu qu'un gâteau aux fruits qui goûte bon, c'est comme plus un A caramel, mettons, ou non, ça va pas.
Ouais, c'est peut-être ça.
Hey Laurent, la première question que je demande toujours à tout le monde, c'est
ouais.
Est-ce que tu te rappelles notre lien de connaissance?
Moi, je t'ai découvert sur Vox, en route vers mon premier gala.
Wow!
Je t'ai vu là, moi j'écoutais ça, moi.
Ouais.
En route, j'aimais ça, cette émission-là, moi. Puis je t'ai vu là pour la première fois, probablement. Puis je me rappelle de t'avoir croisé à un moment donné dans un restaurant.
Ben,
puis tu étais à une autre table, mais on ne se connaissait pas. Donc, je ne pouvais pas aller te dire, hey, salut Guillaume, on ne se connaissait pas, on ne s'était encore jamais parlé.
Tu as raison. Je me rappelle de cette fois-là, qui moi aussi, même chose, j'ai fait, hey, c'est Laurent Paquin. Puis moi, c'était la fin d'une session en ostéopathie. C'est notre chum Scott qui nous avait amené dans un restaurant portugais. Je me rappelle plus, c'était
ouais.
Portugais.
Ouais. Je me rappelle plus. Il me semble que c'était genre asiatique, peut-être plus. Mais je ne suis pas sûr. Anyway. C'est peut-être. Pas si c'est important. Mais
c'était sur Saint-Laurent. Puis je me rappelle, je fais ah, si, c'est Laurent Paquin. Puis je disais au gars, moi, je commence en humour, mais c'est Laurent. Puis là, il était comme mais non, je ne vais pas aller le voir. Il est en soupe, là. Mais moi, je me souviens que une des premières fois, puis encore là, peut-être qu'on se connaissait même pas.
C'était-tu sur mon gala? C'était-tu dans une soirée d'humour?
Non, c'était Mardi de gars, un souper à Saint-Hyacinthe.
Oh my God!
Ouais.
OK, oui, t'étais là donc.
Oui, ça, moi j'ai fait une année parce que Luc Brodeur-Jourdain était toujours un invité d'honneur aussi.
Ouais.
Puis là, Luc avait été son plus un. Puis il m'a dit ah, tu viendras souper avec nous, Laurent Paquin va être là. Fait qu'on était assis à la même table à Cage au Sport.
Ah, c'est drôle.
Ouais.
Ah, j'aurais pas
computé, hein? Mais non, ça fait longtemps.
Faut croire que ça m'a pas marqué. Il parlait pas mal, mais je préfère t'imaginer sur scène, voilà.
Mais j'imagine que ah, moi aussi, je fais de l'humour. Ouais, ouais, ouais. Là, je vais manger un Blitzburger, là, puis on se rejoindra plus tard. Mais oui, c'était une belle soirée, ça, Mardi de gars. Je l'ai fait une couple de fois après.
Je l'ai fait une couple de fois aussi parce que le gars qui est souvent, je ne sais pas s'il est président d'honneur, mais il s'appelle Martin Bourassa.
Ouais.
Il travaille au journal à Saint-Hyacinthe.
Exact.
Puis toi, tu es un gars de Saint-Hyacinthe.
Exact.
Non? Ouais. C'est ça. Ouais. OK, c'est ça. Ben moi, c'est parce que c'est mon chum du secondaire, Martin Bourassa. Ça a été un de mes très, très grands chums. On était même coloc à Jonquière. Quand j'étais au secondaire, on faisait de l'humour ensemble. Mes premiers sketchs, moi, je faisais ça avec deux de mes chums, dont Martin Bourassa. Puis, il m'a invité à participer à l'événement. Fait que, tu sais, c'est comme une façon de voir mes chums une fois par année, minimum. Puis là, avec la pandémie, ça a été tout annulé. Mais c'était des belles soirées. Puis c'est rare que je participe à des événements comme ça. Pour les hommes, c'est niaiseux, hein, vu que c'est des c'est pour les cancers plus typiquement masculins. Donc, cancer des testicules, cancer de la prostate. Fait que je trouvais que c'était fun de s'impliquer pour cette cause-là.
Ouais. Fait que ça, c'est la première fois que je t'ai vu. Et là, on part avec les questions traditionnelles de M.
Oui, on a fait ben trop longtemps là, sur des affaires qui n'intéressent pas le monde.
On est à 6 minutes. Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas pire, là. On est vraiment pas si pire que ça.
Ah, je suis peut-être pas le pire.
Quel est ton mot préféré, Laurent?
Je vais dire papa.
Hmm.
Parce que c'est le mot qui m'a le plus ému en l'entendant. Quand ton enfant t'appelle papa au début, les premières fois que tu te fais dire papa, là, c'est assez troublant.
Est-ce qu'il conserve le papa? Puis...
Comment?
Est-ce qu'il conserve le papa là, ou il t'appelle Laurent?
Non, c'est papa.
OK.
Oui, oui, oui.
Ça me glace le sang, moi, des enfants qui appellent leurs parents par leur nom. On dirait que ça me glace. OK, il y a de quoi de pas taire.
Moi aussi, ça me gosse. Ouais. C'est comme le tutoiement. Je dis pas vous à mes parents, mais c'est comme quelqu'un qui va dire tu à une grand-mère, mettons. Ça me gosse tellement. Ouais. Quelqu'un qui appelle son parent par son prénom, moi, je comprends pas ça.
Ouais, ouais.
Je comprends pas. Au pire, fais ça plus cool, dis maman au lieu de maman, tu sais, peut-être.
Ouais.
Mais non, non, c'est papa. Moi, chez nous, c'est papa puis c'est maman.
Puis ma grand-mère, moi, je disais grand-maman quand même, là, tu sais, mais on avait installé ça rapidement quand j'étais petit, puis ça a été toute sa vie grand-maman.
Mais moi, mes grands-parents, je les vous voyais, là.
Ouais.
Je vous voyais les adultes, mes tantes, mon oncle, tout ce qui était plus vieux que moi ou à peu près, là, je disais vous. Fait que ma grand-mère, c'était grand-maman. Mais vous, vous, là, grand-maman.
Vous, grand-maman, comment ça va?
Ouais. Moi, c'était une autre époque, là.
Oui, oui, oui.
On parle du 20e siècle, là.
Si on va à l'opposé, y a-t-il un mot que tu détestes?
Un mot que je déteste. Hey, je vais dire le mot non. Non. Je sais pas pourquoi ce mot-là. Mais en fait, c'est pas que je le déteste tout le temps, mais il y a des moments où c'est le pire mot de la Terre. J'aime ça les gens quand tu brainstorm ou quand tu travailles sur quelque chose, puis il y a des gens que. C'est quand c'est le premier mot qui pop tout le temps chez quelqu'un.
Ouais.
Ah non. Non. Ah non, ça ne marchera pas. C'est pas nécessairement le mot non, mais tout ce qui est ça ne marchera pas. Non,
fermeture.
On peut pas.
Fermeture d'esprit. Là, ouais.
La fermeture d'esprit. Moi, je me rappelle d'avoir travaillé sur un projet de télévision. Puis à chaque fois qu'on avait une idée, tu avais la directrice de prod qui disait toujours non à tout. Puis Christy, que ça me gossait. Puis quand j'y avais dit, elle m'avait dit « Ah, ben, tu sais, vous autres, vous êtes les créatifs. Moi, je suis le rationnel. » Non, ça ne marche pas de même. Toi aussi, tu es supposé être capable d'être créative. On essaye, nous autres aussi, d'être rationnel. Peux-tu, toi, être créative puis être ouverte un peu d'esprit? Ça m'avait bien fâché de dire « Ah, ben moi, c'est comme ça. Moi, je dis non en premier. Puis après ça, on regarde si c'est possible. » Fait que j'aime bien l'ouverture d'esprit de « Oui! Hey, on essaie tout ça. Oui! » après ça, tu regardes. Peut-être que c'est pas une bonne idée. Ça veut pas dire de tout accepter pour moi, dire oui, tu sais, mais dire non tout le temps, en partant, ça me gosse terriblement.
Surtout un brainstorm, c'est supposé d'être des idées libres, là, tu sais, on laisse ça mijoter. Non, ça vient, ça freine la créativité, là.
Je pense que c'est la première affaire qu'on apprend quand tu franchis la porte de l'école de l'humour. Dans un brainstorm, tu dis jamais non, tu notes, puis après ça, on fera l'élimination.
Hey, sais-tu quoi? Je le sais, puis j'ai même pas franchi la porte de l'école d'humour, Laurent. Imagine.
Ils t'ont pas laissé rentrer, hein?
Non, non. Ils m'ont dit non. J'ai dit, hey, vous êtes pas assez créatifs pour m'essayer.
Exactement.
Prochaine question, je l'ai changé. J'aime toujours quand même dire qu'à la base, c'était votre drogue favorite.
Ouais.
Je l'ai changé pour votre dépendance favorite.
Ah, j'ai l'impression que ça va être la réponse la moins originale, mais le rire.
C'est une très bonne dépendance.
Le rire des gens. Eh, Simonac. Ça, là, nous, on est chanceux parce qu'on en fait notre métier, mais n'importe qui, moi, ma théorie, c'est que dans la vie, n'importe qui, à un moment donné, a réussi à faire rire un groupe. Tu sais, t'es dans un party de famille, tu racontes une blague ou une anecdote, puis tout le monde rit, puis il rit pas de toi, là. Tu sais, il rit avec toi, puis tu les as fait rire. C'est un sentiment exceptionnel. N'importe qui est monté sur une scène une fois dans sa vie et qui a fait rire le monde, il va en reparler à ses 90 ans de la fois où il a monté sur une scène et qui a fait rire le monde. C'est énorme faire rire les gens. Puis moi, je pense que de faire ça dans la vie, peut-être qu'il y en a qui ça devient juste banal, mais moi, je me suis jamais lassé de ça. C'est jamais devenu ordinaire.
Ouais.
C'est devenu la norme. Pour moi, il faut que les gens rient, sinon je suis dans la merde. Mais je veux dire, c'est encore magique pour moi. C'est encore l'affaire. C'est ma drogue. C'est faire rire le monde. Ouais.
Faire rire le monde, parce que, tu sais, mettons, j'y pense par rapport à faire des spectacles. On fait rire le monde, mais tu sais, à un moment donné, notre spectacle devient rodé. On sait, hey, ça s'en vient, ça va rire. Ça, c'est.
Ouais.
Mais quand je suis dans une soirée d'amis où je parle, et même, je suis allé sur une date dernièrement, puis la fille est partie à rire par rapport à quelque chose. Et là, ça me rend comme heureux. J'ai quand même un petit rire de « Ah, si, c'est hot ce qui se passe. » C'est sûr, si je me mettais à rire à chaque joke que je fais sur scène, mais quand c'est instantané, là, sur le fly, là, je me fais encore rire moi-même.
Mais tu sais, quand t'es sur scène, puis il y a des soirs hein, où on a l'impression qu'à soir, on ne sait pas ce qui se passe, mais on est invincible. Tu comprends? Ouais. T'as l'impression qu'à chaque affaire que tu dis, ça rit. Puis toi, en plus, t'es un raconteur. Fait que tu sais, les gens rient des fois par anticipation parce qu'ils voient ce qui s'en vient puis ce que tu racontes. Puis ils sont dedans. Il y a des feelings des fois de « Asti, que j'ai du power! » Tu sais, tu te sens fort. Puis non, il y a des soirées comme ça, là. Ah, c'est la meilleure des drogues. C'est peut-être ça qui fait que je me drogue à rien d'autre que ça.
C'est parfait, ça. C'est effectivement l'espèce de... J'aime Louis-José dit dans son spectacle que ça crée de la dopamine, puis notre cerveau s'habitue à ça, puis il dit
ouais.
La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, puis fait que, dans le fond, j'ai l'impression que vous me donnez de l'amour. Puis... Mais je suis en dépression, mais j'ai quand même l'impression que j'ai de l'amour tout le temps. <t'sais>.
Mais moi, une des phrases les pires que j'ai entendues, c'est quelqu'un qui visiblement n'aimait pas tant ça, l'humour, mais la personne disait « Oh, moi, là, le rire pour le rire. » ça m'avait. J'avais trouvé cette phrase-là tellement dégueulasse. Comme si le rire juste pour le rire en soi, c'était pas assez. Tu sais. Ah, moi, le rire pour le rire. Tu sais. Il faut absolument que derrière ton rire, il y a un contenu social. Il faut absolument que tu dénonces quelque chose. Un propos. Je dis non. Une joke de pète. S'enfarger, puis se péter à la fiole à terre. Une pleure de banane, c'est drôle. J'écoutais encore, il n'y a pas si longtemps, « Maman, j'ai raté l'avion », le deuxième. Puis je ris encore quand le gars reçoit une brique d'en face. Le rire pour le rire, c'est bien en masse. Le rire se justifie par lui-même. Pas besoin de faire de l'humour politique ou à contenu social. Si tu fais ça, tant mieux pour toi, mais... Le rire pour le rire, c'est formidable.
Laurent, comme je sais que t'es un fan de scotch, si je ne m'abuse.
Ouais, 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 quand même.
Si tu te rajoutes un bonheur avec Home Alone, là, tu peux écouter le film. Puis à toutes les fois qu'un des criminels se blesse, tu prends une gorgée. Je te dis, c'est le fun. Nous, c'est une tradition de Noël qu'on fait maintenant. Là. Ben, nous, on le fait avec de la bière. Là, tu prends une gorgée.
Comment se saouler en 40 minutes? Parce qu'à un moment donné, quand ça embarque, quand ça n'arrête pas. Peut-être que je ne prendrais pas du fort à ce moment-là. Je vais peut-être y aller avec un petit cidre de pomme.
Exact, de ne pas être complètement sous
à la fin.
Ouais, j'invite les gens à l'essayer. Là, c'est le temps des fêtes qui arrive. Là. C'est une bonne façon de. C'est une belle tradition à faire.
Ouais, j'aime pas ça.
C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre?
Le son, un rire. Un rire, c'est poche. Un rire de bébé.
Oui.
Parce que, tantôt, je parlais du rire, mais je pense qu'un rire de bébé, c'est le rire le plus vrai, le plus franc, le plus sincère et le plus pur. Moi, là, je peux passer des soirées complètes à regarder des vidéos de maman qui fait quelque chose ou un père qui fait des... Puis là, le petit qui rit, là. Ah, le rire de bon cœur d'un bébé, là, c'est un remède contre la dépression. Il y avait un petit bébé, là, son père faisait juste déchirer une feuille de papier. Puis ça fait... Et l'enfant... Puis il partait à rire. Ah là, ça, là, pour vrai, là, je dis, envoie-moi ça dans les veines du rire de bébé, j'adore ça.
Si tu veux un autre remède pour la dépression, Christine Morancy m'a montré ça sur Instagram. Depuis, j'ai un problème. Kids getting hurt. Je sais que c'est pas supposé d'être drôle de regarder des enfants.
C'est tellement pas fin!
Mais c'est écrit dans la description. C'est super populaire. Là. Il y a comme des millions de followers. Puis ils disent, chaque enfant est correct. Personne n'est vraiment blessé.
Hey, ouais, moi, ils là, disent ça, là. Mais...
Ah, moi, là, voir un enfant qui marche content et qui se pète la tête sur le coin du comptoir, ça me fait rire. Il y en a des bons, là. Il y en a. Le plus drôle, c'est un petit gars, il est déguisé en Flash, puis il a de la misère à dire c'est S, fait que tu sais, il dit « I'm Flash ». Puis là, sa mère a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? » Puis là, il dit « I'm super fast ». Puis là, elle fait comme « Ben OK, montre-nous-les ». Il se retourne, il part, il s'enfarge dans le trottoir, tombe à pleine face. Il a pas fait un pas. Ah, c'est bon, là. Je te dis.
Moi, j'aime la même affaire, mais avec des chats.
Ah, qui se... ouais.
Ah, moi, des chats qui se pètent la gueule, là, il n'y a pas grand-chose de beaucoup plus drôle que ça. Parce qu'un chat, c'est l'arrogance même. C'est l'élégance, l'arrogance, l'espèce de... Tu sais, qui ça marche, ça pète plus haut que le trou. Puis là, d'un coup, ça se donne une swing. Mais ses pattes en arrière ont pas de grippe. Fait que ça glisse. Puis là, au lieu de sauter, il fait... Bouh! Puis là, il sac le camp à terre. Moi, ça, je peux passer des soirées. Moi, je passe beaucoup trop de temps à écouter des vidéos. À mesure qu'on parle, je m'en rends compte.
Mais à l'opposé, maintenant, un son ou un bruit que tu détestes entendre?
Des bruits de bouche. Quelqu'un qui mange. Moi, là, entendre les clapotis de langue, puis c'est l'affaire là, qui me... Une des affaires qui me gosse le plus au monde.
Est-ce qu'il y a des humoristes au bordel que tu entends qui ont des bruits de bouche? Moi, j'en ai. Dans ma tête, j'en ai. Là.
Ah ouais, OK. Ah, pendant qu'ils parlent ou pendant qu'ils mangent?
Pendant qu'ils parlent, puis entre chaque gag. Un petit en deux gags. Moi, c'est assez pour que je sorte de la salle.
Arc! Ouais, non, mais là, c'est toi que tu me dis ça. Fuck, je vais juste regarder ça. Ah non, j'ai pas de nom en tête. Fait que tu vois, je peux pas...
Tant mieux, parfait pour toi.
Quand on sera hors d'onde, tu me diras qui? Parce qu'on est quand même fin, on le dira pas.
Sinon, je peux aussi détruire pour tout le monde là, qui nous écoute en ce moment. Moi, je suis plus capable d'écouter la tribu de Dana, là, la chanson avec Manon. Et lui, il respire entre chaque parole. Là, édite-la, là, enlevez-les. Puis c'est, oui, je comprends que tu es essoufflé et t'expliques une bataille là, sur les plaines, mais t'as pas besoin de faire entre chaque parole. Ça vient me chercher en dedans. Je suis plus capable de l'entendre.
De la tribu de Dana. Oui. Il y a des gens qui font ça, hein? des journalistes, des lectrices de météo. Il y a des gens qui font ça. Et puis, mais pourquoi tu fais éloigne-toi de ton micro, je sais pas. Ouais. Ah, ça aussi, c'est gossant.
La prochaine question, c'est une que j'affectionne particulièrement. Elle change un petit peu de l'humeur du podcast. Mais est-ce que tu te rappelles de ton premier deuil?
Premier vrai deuil, là, mettons. Humain, parce que j'ai...
C'est pas obligé d'être humain. C'est ça l'affaire. Moi, je me rappelle encore très bien dans les premiers podcasts, tout le monde, c'était des deuils animaliers ou un grand-parent. Puis une fille, elle m'a dit... Ben, une fille, c'est Catherine Peach, la fille de qui a fait OD, Catherine Paquin. Puis elle avait fait... Moi, à 22 ans, quand j'ai décidé de changer de vie, de comme... Je suis plus infirmière.
Ah, voyager.
Comme un deuil de sa première vie. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant.
Si c'est ça, son premier deuil, elle est chanceuse. Elle l'a vécu tard quand même.
Oui.
J'ai perdu un chien. Moi, quand j'étais enfant, qui s'était fait frapper par un autobus.
Ah.
Ben, c'est ce qu'on suppose, en fait. C'est un chien qui était formidable. C'est un chien qui était qui avait été battu par son ancien propriétaire. Fait que c'est un chien qui était fin. Il nous aimait, tu sais, évidemment, parce que nous, on le traitait bien. Puis c'était le chien de mon grand frère. Puis quand il voyait l'autobus... scolaire arrivé, il courait, il allait rejoindre l'autobus, puis il courait à côté de l'autobus jusqu'à temps que mon frère débarque devant chez nous. Puis un soir, le chien, on le voyait plus, puis à un moment donné, au loin, on voit une bosse de poils dans la neige qui dépassait, puis là, on est allé voir, puis c'est ça, il était mort. Il s'était fait probablement probablement frappé par l'autobus. Puis je me rappelle, j'étais tout petit. Je me rappelle pas quel âge j'avais, mais ça m'avait bien... J'avais pas pleuré parce que c'était pas mon chien. Puis je pense que je savais pas comment...
Réagir, ouais.
J'avais comme de quoi ici, là. J'étais comme pas bien. J'étais pas bien ici, puis mon grand frère pleurait. Là! Tu sais, ouais. Mais puis toi, t'as comme envie de pleurer, mais tu sais pas trop comment on deal avec ces émotions-là. Tu sais, c'était la première fois que ça m'arrivait, mais je me rappelle que j'ai filé tout croche pendant toute la soirée. Puis ça nous avait bien fait de la peine à tout le monde. Ça, je me rappelle de ça. Mon grand frère qui pleurait, puis qui le serrait dans ses bras. C'était pas le fun. C'était pas le fun.
C'est quel type de chien, te rappelles-tu?
Même pas, c'était probablement un petit mélange, un bâtard. Il était un peu blanc, un peu beige. Il était de toutes sortes de couleurs. Ça devait être un petit chien bâtard qui s'appelait Rex.
Ah, oh, Rex. Rex, c'est un nom d'animal que tout le monde connaît, un Rex.
Moi, ouais, c'était pas si original. Il s'appelait déjà de même, je pense, quand on l'a eu.
Ouais.
Quand on l'a sauvé, finalement, du monsieur qui s'acquérait des coups de pied dans la face.
Ah.
Et voilà. Ouais. Il s'est fait frapper par plus fort qu'un coup de pied. C'est comme ça qu'il a fini sa vie. Tu vois? La vie est ironique. La vie est une salope, des fois. On va se le dire.
C'est vrai? C'est vrai? Ouais. C'est quoi ton blasphème ou gros mot préféré?
Tous les blasphèmes.
Ah!
Tous les blasphèmes. Je sacre énormément. Je fais attention quand j'ai des enfants avec moi, là, mais mes enfants sont bons. Mon fils, ma fille non plus, en tout cas pas devant moi, ils ne sacrent pas. Puis c'est pas que je l'interdis, c'est que je leur dis pas des beaux mots. J'ai dit, papa, il dit ça, mais c'est pas une raison pour le dire. J'aime les sacs. J'aime particulièrement le sacre ciboire.
Oui.
C'est pas celui que j'utilise le plus, mais je ne sais pas pourquoi. Il est comme, justement, c'est pas un sacre utilisé par beaucoup de gens.
Il est soft, lui, je trouve, quand même.
Ciboire. Moi je trouve que c'est peut-être parce que je suis fan de Plume la Traverse.
Ouais, ouais.
Et Plume la Traverse, quand il dit merci à son public, il dit « ma gang de ciboire ». Il appelle son public ma gang de ciboire. Fait que ça, moi, je trouve ça drôle parce que comme je suis fan de Plume, je fais officiellement partie de la gang de ciboire. Ça,
j'adore. Que,
ouais, j'aime ça. Ciboire, c'est probablement parce que ça me fait penser à Plume. Je pense que c'est ça. Parce que sinon, tous les autres sacs, tu sais, le tabarnak, c'est comme le sacre ultime. Là, tu sais, c'est celui, là. Quand tu veux souligner quelque chose puis mettre l'emphase vraiment très fort, c'est avec un tabarnak. Mais je dirais ciboire.
Ciboire, bon choix. D'ailleurs, j'étais allé valider. Non, non, mais on est en ce
comme moment, la vendeuse au magasin, peu importe le soulier que tu prends, excellent choix.
Très bon choix. Je suis bien heureux de ça. Non, mais ciboire, c'est pas un qui revient souvent. Puis c'est parce que pendant que tu disais ça, Pat Grou qui est fan aussi de Plume. Puis moi, je suis fan de Plume, pas autant que vous, mais tu sais, en rentrant chez Faneuf, quand j'ai su qu'il était dans la boîte chez Groupe Faneuf,
ouais.
Là, moi, tout de suite, j'appelle Benjamin. Je dis, Benjamin, il joue à Laval, là, à Maison des Arts, la petite salle. Je peux-tu dire? Bon, fait que là, j'étais allé voir un show de Plume avec juste 300 personnes. Puis c'était la première fois.
Ça devait être écœurant, hein?
Mais c'était bon. Puis il jouait toutes des tunes de son nouvel album. Puis là, quelqu'un dans la salle, tu sais, qui crie « Joue Jonquière! » Il fait tout « Femme de la crise de gueule! »
Moi, je l'avais vu en show, puis il disait « On va prendre des demandes spéciales. » Puis là, il pointe les gens. Puis là, des gens disaient des tunes. Puis il disait « OK! » Puis là, il partait une autre toune. Il partait la toune qu'il voulait. Ça me faisait bien rire aussi, ouais. Ouais quand mais... Plume, il décide qu'il va faire les tounes qu'il veut, là. Quand même que tu crierais « Bob Épine » à toi, 2 secondes.
Exact.
À un moment donné, il va te dire de fermer ta gueule. Puis il va
c'est
dire,
ça.
Il fait ce qu'il veut. C'est ce que j'aime de Plume, mais entre autres.
Pat m'a appelé la semaine dernière parce qu'il est en congé. Puis là, il me dit « Pino! » Ils disent, on va voir Plume le 29. Puis là, je regardais, puis je fais, on est le 29, mais il est à Gatineau à soir. Puis j'étais supposé de monter et aller là-bas. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu parce qu'on a chacun quelque chose. Mais reste quand même que je suis comme, c'est encore là. J'ai encore du monde qui m'invite à aller voir Plume. Puis ça me rend heureux.
Moi, j'ai vu Plume, je pense, 9 ou 10 fois dans ma vie. C'est l'artiste que j'ai le plus souvent vu.
Oui.
Je l'ai vu en trio, je l'ai vu en duo, je l'ai vu avec le band Les Mauvais Compagnons. J'ai juste pas vu celui avec Les Parfaits Salauds dans le temps. Mais je l'ai vu, j'ai vu son dernier show, Séquel, avec le trio lait. Ça me fait rire comme nom de band, le trio lait. Puis je suis chanceux, je connaissais déjà, moi, Jean-Claude Marsan,
ouais.
Qui est son guitariste depuis le début des années 80, je pense. Puis on était dans le même bureau à un moment donné, Jean-Claude puis moi. Fait qu'à cette heure, quand je le vois, il me dit salut. Puis quand je vais voir Plume, il me voit dans la salle. Il dit, hey, viens-tu prendre une bière avec nous autres? Fait que, tu sais, je suis dans la loge en arrière avec Jean-Claude. Mais dans ma tête à moi, c'est, est-ce que je suis dans la même loge que Plume la traverse? Puis,
c'est fou.
Puis il est bien fin, tu sais. Des fois, je posais une question. J'étais un peu gêné, évidemment, tu sais. Le défi, c'est de ne pas avoir l'air groupé.
Ouais.
Quand tu parles à quelqu'un là, que tu es vraiment fan, là, tu sais,
ouais.
Si tu as l'air trop fan, il s'emmerde. C'est pas le fun pour la personne, tu sais. C'est exact. Le fun d'avoir des fans, mais tu veux pas jaser avec quelqu'un qui est en béate admiration, là, tu sais. Fait que, ça avait fait ça aussi pour Yvon Deschamps, tu sais. Je m'étais dit, si je veux être capable de jaser avec Yvon Deschamps, il faut que je jase avec lui comme si on était égal.
Ouais.
Alors qu'on l'est crissement pas. Mais tu sais, dans ma tête, à moi, c'est ça, tu sais. Sinon, c'est pas le fun.
Mais lui, du moins, il jase de même. Je pense pas qu'il te fait sentir comme ça.
Non, c'est ça, pas du tout. Ouais. Même chose pour Plume, tu sais. C'est juste que c'est quelqu'un de plus gêné, fait qu'il est moins spontanément porté à parler à du monde qu'il connaît pas. Tu sais, il y avait toujours des amis à lui dans les loges. Chaque fois que j'ai vu Plume dans des loges, il y avait toujours plein de monde. Ouais. Déjà, ses musiciens, puis avec leurs amis, puis des amis, puis du monde, des fois, que je connaissais. Benjamin, des fois, il est là, justement. Ouais. Tu sais, fait que... je me trouve bien chanceux.
Si t'es fan, il faut que tu t'installes avec Benjamin puis tu jases, là, il va te sortir des fun facts, là, tu sais, comme « Ah, la petite qui pleure dans Ne pleure pas, petite fille, c'est ma sœur, ça. Elle avait un an, puis là, elle braillait dans le bout pendant que mon père essayait de gérer quelque chose. C'est hâte de tout savoir ça. »
Oui. À un moment donné, il y avait un gars dans la loge de Plume, à la Place des Arts, puis à un moment donné, il s'en va. Puis c'est Jean-Claude Marsan qui me dit « Ce gars-là, là, c'est un tel Paranto. » C'est lui, Paranto. Tu sais, dans la toune de Robert Charlebois, quand il dit « Attention, Paranto. » Il dit, tu sais, j'ai passé des belles nuits hein, à Toronto. Il m'en est dit, ah ouais, vas-y, Paranto. Ben, ouais. C'est lui, Paranto. Je trouvais ça donc bien drôle. Je connais le Paranto qui est nommé dans la toune de Charlebois. Ça me faisait rire.
C'est le fun, ça. Moi, moi tu vois, c'est quand tu dis c'est Plume, moi, c'est les trois accords et les Cowboys fringants. C'est les deux bands que j'ai le plus vus. Puis là, les Cowboys, je tombais ami par la bande. Avec Carl en jouant au disque golf. Puis là, j'allais voir des shows. Puis là, quand je vais voir le show, il fait « Ah non, mais les frères Talbot sont là, là. » Tu sais, ceux qui dorment comme des marmottes dans le chaque hectare. Mais Chris, ils sont là au show à soir à Québec. Puis là, c'est ils me nomment les gars. Je dis « Chris, ces gars-là existent tous. » C'est vraiment cool. Fait que,
bon, les trois accords, tu as écouté le dernier?
Oui, j'ai écouté le dernier.
C'est cœur, hein?
Ces gars-là sont fourrés. Mais tu sais, moi, en plus, j'ai écrit, parce que Charles, c'est un bon fan d'humour. Là, il est souvent au bordel, le drummer. Puis j'ai écrit « Charles, je veux vraiment entrer sur une toune des trois accords. » J'ai choisi la mienne. C'est pas la toune la plus connue. J'ai pull pastel. J'ai dit, ça vous dérangerait-tu de juste m'envoyer comme la trame, tu sais, comme juste l'instrumental. Enfin, je t'ai fait ça. Il m'a envoyé ça. Il m'a édité ça. Tout. Puis j'ai fait, « Ben, vous me direz comment. » Il dit, « Hey, on veut rien. » Déjà, je pense que t'es le premier qui prend notre toune puis qui nous la demande. Là, tout le monde rentre ses trois accords.
C'est bien drôle. Ben oui, mais moi, tu vois, là, si j'avais décidé d'entrer sur une musique des trois accords, j'aurais appelé, je serais rentré en contact avec Simon puis j'aurais dit, « Compose-moi quelque chose. »
Ouais.
Il faut que tu payes, là. Ça coûte plus cher, là, pareil.
C'est ça. Moi, je leur ai demandé, « Pouvez-vous me composer? » Il me dit, « On ne va pas mentir. » Il dit, « Nous autres, tout. » Ce qu'on enregistre, on le fait en studio à New York. Fait que déjà là, en partant,
oh boy,
fly in, c'est 11 000. Fait que là, il dit, tu veux-tu encore une toune? J'ai dit, non, je pars un show, moi, là. J'ai pas...
Attends, fait que les autres sont même pas rentrés dans le studio puis ça les a déjà coûté 11 000.
Ouais.
Sacrément, OK. Non, ils ont du budget, d'abord. Moi, tu vois, j'ai demandé à Daniel Bélanger de faire la musique de mon prochain show.
Wow.
Puis il a dit oui. Fait que ça, c'est malade. Ça, c'est malade. C'est la première fois que je demande à quelqu'un... De connu, là, tu sais, j'ai eu des musiques faites. Toutes mes musiques d'entrée de show étaient des musiques originales.
Ouais.
Mais c'est généralement, je demandais ça à des chums qui sont musiciens, qui travaillent bien. Puis là, je sais pas, j'ai eu ce flash-là. J'écoutais beaucoup de Daniel Bélanger à un moment donné. Puis je me suis dit, ah, ça serait cool rentrer sur une toune comme celle-là. J'écoutais une toune pas très connue d'un album pas très connu non plus qui s'appelle Deflabox.
OK.
Qui est moi, dans mes préférés de Daniel Bélanger. Puis, il y a une toune là-dessus particulièrement rock. Puis, j'ai fait, si je rentrerais sur une toune de même. Fait que là, j'y ai écrit sur Instagram. Puis, il m'a dit oui. On s'est rencontrés, on a jasé. Puis, il a fait, OK, c'est cool. Ça me tente. Fait que j'ai reçu la toune il n'y a pas si longtemps, genre un premier jet. Mais déjà, je trouve ça écœurant. Ah, c'est vraiment cool.
C'est malade. Ben, bravo d'avoir eu le guts d'y demander.
D'avoir osé, parce qu'on n'est pas, de chum à la base, lui, puis on se connaît. Je pense qu'il respecte ce que je fais, puis moi, j'adore ce qu'il fait. Ouais. Je suis plus fan de lui que lui est fan de moi, probablement, mais c'est pas grave, il a accepté, fait que j'étais flatté.
Très cool. Cette question-là aussi, à toutes les fois, je dis je vais l'enlever, puis maintenant, on dirait qu'elle est redevenue super en mode. Demain matin, Laurent, on te donne le mandat. C'est toi qui décides quel homme ou quelle femme on imprime sur le prochain billet de banque. Qui tu choisis?
Ah! Hey, bonne question. Moi, je mettrais plus de politicien, moi.
Non.
Non, j'arrêterais ça, moi. Tout ce qui est politicien, je mettrais des vraies personnes qui ont marqué le Canada, mais dans le bon sens. C'est, tu sais, genre Maurice Richard.
Ouais.
Guy Lafleur, le 10, le billet de 10. Tu mets Guy Lafleur, est-ce-tu? Ouais. Sur le billet de 10$, ça serait cœur, hein? Tu sais, au lieu de choses McDonald's dont tout le monde se fout, c'est d'ailleurs, il vient pas un peu d'être cancellé, lui-là, là.
Ben, il a pas dit des affaires.
Ah ouais, ben, en même temps, à l'époque, tout le monde était un peu raciste, là, mais il a dit, il me semble, des affaires épouvantables. Il me semble que c'est Johnny McDonald. Il
avait bon, dit quoi, début,
il avait dit quoi sur les Autochtones et qui était épouvantable, me semble. Oui.
J'ai reçu quelqu'un m'a envoyé une charte, là, c'est tous les billets de banque canadiens, puis à côté, c'est toutes les affaires inconcevables que ces gens-là ont faites.
Wilfrid Laurier aussi, il a sa part des cœurs en tri. Ça reste que c'est des politiciens, puis des politiciens, veut pas, avec le temps, on réalise que c'était pas tout clean. Mais tu sais, un Maurice Richard, comment il s'appelait le marathonien là, qui a traversé le Canada?
Terry Fox,
qui n'a pas réussi à traverser le Canada, mais ça a été une source d'inspiration pour tellement de monde. Maudit que je n'entends parler de lui, la marche de l'espoir. Il faut dire que quand j'étais petit, il y avait des pubs pour ça, puis il ramassait des dons. Fait que, ça a été super médiatisé. Puis lui, à moins que je me trompe, c'est quand même quelqu'un qui a inspiré beaucoup de monde. Sinon, Leonard Cohen, peut-être. T'sais.
Oui, bien joué. Tu sais qui revient souvent, Laurent?
Non.
Yvon Deschamps?
Ah, ben oui! Mais moi, je trouve que moi, en tant que souverainiste, j'ai pas le goût de voir mes artistes que j'aime sur un billet canadien. Devenons indépendants, puis on verra après. Là, tu sais,
Mike Ward avait dit « Je mettrais René Lévesque, mais je mettrais sa phrase en anglais. » Puis ça, j'avais trouvé ça bon. C'est comme, il dit « Je choquerais tout le monde. Je choquerais les Canadiens, mais je choquerais les francophones aussi. »
Genre, en mettant la phrase « Something like a great people. » Quelque chose comme un grand peuple.
Ouais. So, what you're telling me is like, see you next time, là, tu sais, comme, je sais pas trop, là.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois.
Ouais. Ouais. Y a-tu un métier que tu sais que tu aurais détesté faire?
Y a un métier que j'ai détesté faire, mais mettons que je sais que j'aurais détesté faire. Dealer avec la maladie, tu sais, tout ce qui deal avec la maladie. Médecin, infirmière, préposé aux bénéficiaires. Je regarde les gens qui travaillent avec des enfants malades, mettons. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont clowns pour les enfants dans les hôpitaux, tu sais. Puis, c'est pas que j'aurais détesté faire, c'est que je sais que je serais pas capable. Je suis pas capable de dealer avec la maladie. Moi, j'ai été à Sainte-Justine à un moment donné avec des personnes, là, juste. Des personnes connues là, qui allaient visiter les enfants, mais surtout les parents, en fait. Les enfants ne me connaissent pas tant vraiment. Là. Mais puis des fois, là, je sortais de la chambre, là, puis j'avais le goût. Il fallait que je sorte, je vais broyer. Fait que je dis, t'imagines-tu faire ça tous les jours, dealer avec. Tu sais, je suis rentré d'une chambre avec un petit enfant qui avait une tumeur au cerveau, puis il y avait une partie de la tête qui était rasée, puis il y avait des tuyaux qui sortaient, il dit là, tu sais, puis il jouait assis dans sa petite bassinette avec des affaires, comme un enfant normal joue avec ses jouets, tu sais, puis il allait se faire opérer, genre, la semaine d'après, ou, tu sais, puis là, ça m'a tellement bouleversé, je serais tellement pas capable de faire ça, mais la job que j'ai haï dans ma vie, je travaillais dans un couvoir, et puis, je faisais du triage de
poussins.
Je triais les œufs, en fait. C'était avant les poussins. Donc, moi, je pognais des œufs dans une patente, puis je les mettais dans une autre patente pour que tu sois couvé. C'était des machines. Donc, tu mettais les œufs dans une espèce de long tiroir en métal que tu rentrais dans une grosse machine qui donnait une chaleur égale tout le temps aux œufs pour qu'ils soient couvés comme il faut. Puis là, des fois, il y avait des œufs fécondés, mais qui étaient, le poussin n'avait pas survécu. Des fois, il y a des œufs qui n'étaient pas fécondés. Fait que là, ça se mettait à pourrir à l'intérieur. Et puis, tu sais, des fois, les gens disent « Ah, ça sent les œufs pourris. » Non, non, non. Tu sais pas c'est quoi, des œufs pourris. Moi, je le sens, Nasty, ça sent quoi, des œufs pourris? Les œufs pourris, là, tu sais, c'est d'un cartoon, là, tu verrais, mettons, l'effluve arriver de même, te passer en dessous du nez, puis c'est instantanément. Écoute, c'est dégueulasse. J'ai haï ça. J'étais d'une place, fait que t'étais entre l'odeur des œufs pourris et l'odeur des produits chimiques qu'on envoyait partout sur le plancher. Moi, à la fin de la journée, je nettoyais le local avec un espèce de gros jet de produits chimiques sur le plancher. Fait que ça sentait fort, ça te brûlait quasiment les yeux. Puis mais c'était plus agréable que l'odeur des œufs. Ah, c'était. Ah. J'ai haï ça. Puis là, l'œuf éclate parce qu'il y a la fermentation à l'intérieur de la coquille.
Ouais.
Ça fait une pression sur la coquille. Fait que là, l'œuf, tu fais juste le manipuler un peu ou tu pètes juste un peu trop fort dessus. Puis là, ça fait « Pow! » Puis moi, je steppais à la fin de la journée, je shakais de même. Les autres employés riaient de moi. J'avais l'air d'un bel épais qui avait peur. J'étais de même avec mes œufs. Ouais, ouais. À bout de bras, je les vidais dans la chaudière. Là. C'est quand je sentais qu'il était plus bon. Là, tu sais. C'était ouais. Épouvantable.
Je comprends. Quand en tant qu'ergothérapeute dans le passé, j'allais faire des inspections de postes de travail. Je pense que j'ai déjà compté sur le podcast, mais j'étais allé faire Olimel, tu sais, puis j'allais évaluer le poste pour un monsieur, voir s'il pouvait continuer à être accrocheur de poulet, tu sais, puis j'étais accrocheur de poulet. Mais c'était vraiment ça, là. Il reçoit les poules, il les pogne, il est mal en vert sur des crochets, là, ils partent, puis ils vont se faire slider, là. C'est vraiment ça, ouais. Là, tu sais. Puis les plus intelligentes, ils se lèvent la tête par-dessus les sliders. Fait qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne avec un couteau, il est snap. Lui, à journée longue, tout ce qu'il fait, c'est achever des poulets trop intelligents. C'est comme, calisse que ça doit être désabusant de la vie. Mais en même temps, c'est bien correct. Là, je juge pas, puis chacun a son métier. Mais je me rappelle, là... Puis
ça a l'air effectivement dégueulasse.
Ouais.
Mais ça reste que dans la nature.
Ouais.
C'est... Il n'y a pas un animal qui est tué de façon plus humaine que ça.
Non, 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 je comprends.
C'est triste à dire, là, évidemment, oh, oui. Peut-être qu'il y a des gens qui steppent, qui vont, il n'y a rien d'humain là-dedans. Oh, oui. Mais en fait, non, c'est pas humain, c'est animal. Mais dans la nature, la poule n'est pas morte, que le loup a déjà commencé à manger la moitié, là, tu sais.
Oui, oui.
Ouais. C'est dégueulasse, ouais. Mais c'est ça. Quand tu manges la viande, il faut que tu t'assumes ça, tu sais.
Je poursuis. Mais en fait, je vais continuer sur ton. Tu sais, tu disais ça, travailler dans les hôpitaux. J'ai eu.
Hey, jusqu'à maintenant, ça se passe-tu bien? Je parle-tu trop?
Hey, c'est parfait, Laurent.
Je me dirais.
Oh, ouais, c'est numéro 1 pour vrai. C'est moi qui parle trop, en fait. Je suis excité de ce genre de. Là, j'essaye pas que ça paraisse, là, tu sais.
Ouais. Mais, ouais, non, on est d'égal à égal, tu comprends?
J'avais parlé avec un chirurgien, justement, qui travaillait à Sainte-Justine. Puis à un moment donné, j'ai dit, faut que je vous le demande, tu sais, comment vous faites pour. Pas être tout le temps décalussé de la vie, là, tu sais. Puis il m'a dit, il faut juste pas qu'on s'approprie la peine de... Il dit, la façon qu'il m'a l'expliqué, c'était super clair. Je suis jamais capable de le réexpliquer à quelqu'un, mais il disait...
Hey, mais je pense que je comprends quand même. Tu t'appropries... Il faut pas que tu t'appropries la tristesse de la personne.
Mais hey, de la personne, mais de la famille aussi. Pas, c'est comme s'il disait... J'ai comme pas le droit de faire hey, moi aussi je vais être. Tu sais, c'est votre enfant, c'est votre famille. C'est... Fait qu'il dit je leur laisse vivre ça. Puis il dit moi, tout ce que je fais, c'est d'essayer de l'amener vers le. Mais c'est comme hey, c'est une force d'esprit que je.
C'est ça,
pas,
ça, là. C'est le bout que moi, j'y arriverai pas. Parce que, puis tu sais, des fois, on entend des gens dire ah, on est des numéros pour eux autres, là, tu sais, ah, on n'est pas important. Puis là, tu sais, ah, le docteur, on va y reprocher d'être un peu frette, là, tu sais. Mais tu sais, qu'il deal avec ça à longueur de journée, tu sais, il faut qu'il se protège. S'il est impliqué émotivement à chaque décès ou à chaque fois qu'un enfant fait pitié, parce que ça arrive souvent, tu sais, il survivra jamais. Tu veux-tu un médecin qui est en dépression constante ou tu veux un médecin un petit peu frette, mais qui fait sa job?
Moi, je veux un médecin qui me voit comme un char. Là. Toute cette pièce-là ne fonctionne pas, on va l'ouvrir, on va le changer. C'est de la mécanique, là. C'est ça qui est. Puis c'est bien correct. Là.
Exactement. Tu veux pas qu'il ouvre ton dossier et qu'il fasse oh non!
Non, 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 non.
Oh non, pour vous!
prochaine question, c'est que tu y crois ou non, si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir?
Oh. En quoi j'aimerais revenir? Ah, peut-être un animal qui ne vit pas longtemps. Je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de la race humaine. Fait que être pogné pour revivre une vie, Déjà, je me sens quasiment mal d'avoir mis au monde du monde. Là. Je me dis, quel genre de monde on laisse à nos enfants? T'sais? Fait que là, de me dire, moi-même, je reviendrai, pas sûr. Pas sûr que je reviendrai. Je reviendrai en une manne. Ça fait 24 heures. C'est ça, je me réincarnerai en manne constamment. À tous les jours, je renaîtrai. Mais, remarque, c'est quasiment comme de vivre éternellement, ça. Hey, je n'aime pas ta question.
OK. Mais celle-là, elle appartient à Bernard Pivot, tu comprendras.
Ah, salaud.
Je continue avec ces questions, encore là, que tu crois ou pas. Après ta mort,
ouais.
Là, tu ne reviens pas. Là, tu es mort. Tu arrives aux portes du paradis. Saint-Pierre, il est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée?
Ah, mon Dieu. Probablement que s'il y a un peu d'humour, j'aimerais ça qu'ils me disent « Ah, t'as l'air cave, là! » Parce que je suis non-croyant, tu sais.
Ben oui,
fait que d'arriver au ciel, puis t'as Saint-Pierre qui est là, tu rentres, tu dois faire « Attends! »
Excusez-moi.
Et là, tu fais comme tous les humoristes quand la première liste est sortie. Tu repasses ton passé dans ta tête, puis tu dis « Bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait? »
Hey, tu dis, c'est drôle parce que hier, c'était ton gala qui passait à TV.
Comme oui, j'ai écouté ça, là, d'ailleurs. C'était très bon.
Puis moi, je faisais un numéro sur la religion dans ouais, ton
t'as
gala.
T'as bien fait ça.
Puis hier, j'ai reçu un message d'un curé sur mon Facebook disant qu'il était bien déçu, puis qu'il y a plein de monde qui avait la foi, puis que c'était pas correct de rire de ça. Puis j'ai juste répondu. J'ai essayé de rester super gentil. Je disais, écoutez, monsieur, le but n'était pas de vous décevoir. Comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui sont également déçus de la religion. Je dis, yes. C'est de l'humour, mais j'espère que vous trouverez la foi pour me pardonner.
Ah! ça, c'est bon. Ça, là, tu pognes ses affaires à lui, tu revires ça de bord, puis tu y remets d'en face. Ça, c'est de l'autodéfense intellectuelle formidable.
Non, mais c'est ça.
Ton numéro, il disait pas que les gens qui croient sont des épais. Mais ça, en tout cas, tu finissais sur quelque chose d'un petit peu crunchy sur l'Église puis les messieurs qui ont fait des choses douteuses. Fait que le monsieur qui t'a écrit, là, il mange de la marde.
OK, on le salue.
Moi, quelqu'un m'avait écrit pour me dire qu'il était déçu. J'y ai répondu, décevoir les gens fait partie de mon métier.
Ben oui, tu peux pas juste plaire à tout.
Et je vis avec ça.
Hey, si tu essaies de plaire à tout le monde, c'est toi que tu déçois. Fait que garde, faut que je déçoive quelqu'un quelque part. Là.
Voilà, exactement.
Laurent, la prochaine question, là, elle provient de Manon Pinault, ma mère.
Oh!
Ma mère pose une question à chacun de mes invités. Ma mère dit, Laurent Paquin, que diriez-vous à vos enfants s'ils voulaient faire de l'humour leur métier? J'ai l'impression qu'elle me parle à moi, là. Mais c'est à toi qui a posé la question.
Elle se dit, moi, j'ai raté ma shot. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Bonne question. Qu'est-ce que je dirais? Je laisserais aller les choses avant de parler.
Oui.
J'attendrais de voir. Parce que d'un coup, mettons, que mon fils ou que ma fille, d'un coup que mon enfant est bon là-dedans.
Oui.
C'est un métier formidable. Fait que je dirais, travaille.
Ouais.
En fait, c'est le conseil que je donne à n'importe qui veut faire de l'humour dans la vie. Ben, travaille. Parce que si tu ne travailles pas, même si tu es bon, ça ne marchera pas. Il y en a trop qui sont déjà là, qui sont déjà bons. Puis que. Qu'est-ce que je dis? C'est mon enfant. Je l'encouragerais. Ouais. En fait, je m'en fous de ce qu'ils vont faire dans la vie plus tard. Moi, je veux juste qu'ils soient heureux. Fait que si ça te rend heureux, fais pas ça juste parce que tu veux faire comme ton père. Puis peut-être que s'il n'était pas bon, j'y dirais.
Ouais.
J'essaierais d'être honnête, mettons. J'essaierais. Mais des fois, on se trompe, hein?
Ben oui, exactement.
Des humoristes qui se sont fait dire, ouais, mais t'es pas drôle, tu réussiras jamais. Ouais. Puis finalement, ils ont réussi, fait que, tu sais.
Je m'étais déjà fait dire par un autre humoriste sur un concours, moi, je comprends pas pourquoi le monde rit, t'as pas de gag. Je suis comme, ben, je sais pas quoi te dire, là. Je raconte des anecdotes, fait que oui, ça se peut que j'avais pas un gag construit, mais... Chris, j'imagine, il y a de quoi quelque part pareil, là.
C'est bien épais à dire ça.
Je sais, ça m'avait bien insulté, mais aujourd'hui...
C'est quoi un gag pour lui, tu sais? Faut-tu que ça commence par une fois, c'est un gars qui rentre dans un bar puis qui rencontre un lutin, tu sais, voyons, c'est un gag, ça... Les gens rient des fois à une drôle de face, hein? Ouais. Des fois, tu dis quelque chose, puis que les gens riront pas, mais quelqu'un d'autre va dire la même chose, puis les gens vont rire. Fait que les gens rient pas à un gag de c'est un gars qui va chez le médecin, puis le médecin, il dit il vous reste deux semaines à vivre. C'est pas de même, ça marche le rire. Ouais. Tu vois quelqu'un tomber, c'est pas une joke, il n'y a pas de gag là-dedans, mais tu vois quelqu'un tomber, c'est drôle, tu sais. C'est faut pas intellectuel. Mais je comprends que des fois, des gens disent tu lis ça, puis il n'y a pas de joke.
Ouais.
Mais si le monde rit, c'est tout. C'est la seule affaire qui est importante là-dedans. Là,
l'interprétation joue pour beaucoup. Puis moi, des fois, je viens heureux là, parce que dans la prémisse, ça arrive. « Asti, attendez tout à l'heure, vous allez fendre. » Ça, ça me rend bien content, ça.
Oui. Oui, mais c'est ça. Quand tu sens que tu tiens les gens, là, puis que t'es là, les gens sont avec toi, sont de ton bord, puis t'es... Ah, c'est ça. Des soirées où on est invincible, il y en a, là, puis ça, c'est magique.
On est rendu à la section rafale, qui n'est jamais vraiment des rafales, Laurent. Tu sais, j'appelle ça.
On finit toujours par parler trop longtemps.
Ben oui, puis c'est bien correct. C'est le but de. C'est avec Yann Bilodeau, mon auteur, qui a un gros apport quand même à ce niveau-là dans les questions. On te donne des choix. Tu peux trancher, faire comme clac, c'est ça, mais tu peux aussi expliquer pourquoi. Mettons, te donner une petite idée. Premier, c'est Stéphane Fallu ou Sylvain Larocque?
Oh mon Dieu! Ça dépend sur quel aspect, mais. Je vais dire Stéphane Fallu parce que Stéphane Fallu, on est des amis dans le travail, mais aussi dans la vie. Sylvain, c'est un de mes plus grands chums, mais dans le travail. Okay. On travaille ensemble, on se côtoie quasiment juste dans le travail. C'est arrivé à peu près jamais qu'on s'est appelé pour se dire « On va-tu juste prendre une bière puis jaser? » C'est pas qu'on veut pas, c'est juste... On l'a comme jamais fait. Sylvain, il a sa vie sociale. Mais Fallu, c'est différent. On a fait de l'impro ensemble aussi. Fait qu'on on a dormi dans le même hôtel. On a fait des impros ensemble. On a été dans le même party. On est devenus des chums aussi dans la vie. On s'invite à souper. C'est peut-être ça la différence avec Sylvain, mettons.
Billy Tellier ou Rachid Badouri?
C'est vraiment chien.
C'est rare.
Je vais dire Billy Tellier parce que aussi, c'est la même chose. C'est plus un ami... depuis plus longtemps que Rachid. Ouais. Mais en même temps, les deux, je les considère comme des amis. Rachid, peut-être que c'est un ami aussi plus professionnel. On s'aime, on s'apprécie, mais c'est vrai que dans la vie, on ne s'est pas dit on va faire un souper ensemble, alors que Billy, oui, quand même un peu.
Parfait.
Voilà.
Irma la Douce ou Chicago?
Irma la Douce. Je vais dire Chicago.
Ouais.
Pas pour la ville, mais pour la comédie musicale.
Oui. Bien joué. Que...
ouais. Mais Irma la Douce, je comprends pas.
Il va falloir que je demande à Yann, moi non plus.
Pourquoi Irma la Douce? Penses-tu que j'ai joué dans quelque chose qui s'appelle Irma la Douce?
Je vais demander. Ou,
c'est peut-être ça. Mais Chicago, c'est la première fois que je jouais d'une comédie musicale, qui était la comédie musicale, évidemment, Chicago, qui est connue sur Broadway depuis. Ça joue encore d'ailleurs, hein? C'est une des
comédies musicales.
Que, c'est toujours à l'affiche. Puis c'est un show dont la popularité ne se dément pas. Puis j'avais un beau personnage, je faisais le mari cocu là-dedans. Puis on l'avait fait au Québec il y a de ça plusieurs années. Là, on parle début 2000. Là, je pense en 2001. Quelque chose de même, me semble. En tout cas, peu importe, mais ça fait vraiment... Ça fait vraiment longtemps, puis j'avais un beau personnage. C'était vraiment touchant. J'avais les petits moments comiques dans le show parce que mon personnage était touchant, mais en même temps comique. Tu sais, fait que, d'ailleurs, c'était une méchante belle aventure.
Il a mis des deux Simons. Simon Boudreau ou Simon Delisle?
Boudreau, c'est mon grand chum depuis. On se connaît depuis le cégep. Fait qu'on fait de l'impro depuis tellement longtemps ensemble. On a écrit un show ensemble. On va se donner des rendez-vous pour prendre des vacances ensemble. On va souper ensemble. Fait que Simon Delisle, ça reste encore une amitié très, très professionnelle, mais on s'apprécie dans la vie. Mais Simon Boudreau, à cause du nombre d'années qu'on se connaît, puis sa blonde s'entend bien avec ma blonde, ça fait qu'on est comme deux couples qui se fréquentent beaucoup. Fait que c'est pour ça. Mais ça n'enlève rien aux autres, hein?
Non, mais non.
Tu vois, j'essaie juste de ne pas éviter les questions, mais c'est
chiant. Mais tu as super bien répondu, puis personne ne va être choqué. Regarde, là, on tombe plus soft, là. Scotch ou cigare?
Scotch.
Ouais.
Ouais. Mais pas n'importe lequel, mais l'idéal, c'est les deux ensemble.
Oui.
Mais tu sais, je découvre tellement d'affaires. Tu sais, là, je commence à boire du rhum puis dire, ah, moi, je snobais le rhum. Tu sais, dans ma tête, c'était juste un alcool de sucre un peu cheap. Alors que le scotch, il y a des trucs plus raffinés. Il y a des bouteilles qui vont coûter une fortune. Il y a plus de connaisseurs péteux de scotch. Mais plus je vieillis, plus je découvre aussi les gins. On a tellement des bons gins québécois.
Moi, gin, tu sais, j'ai commencé ça, le mini-collection là, au chalet. Là,
ouais, hein? Ouais, moi, j'en ai ben trop. Je boirai jamais tout ça, c'est sûr. Mais le scotch, là, un bon scotch. Des fois, je reviens au cognac, un bon cognac, c'est bon en tabarouette.
Je me rappelle parce qu'il y avait eu un jour de l'an que tu étais là chez Simon Delisle, puis tu avais amené des scotchs, puis j'étais comme,
ouais!
Hey, je vois. M'a participé, Laurent, de faire plaisir, là, mais tu sais, puis tu as mis un fond, j'ai un tas! Non, mais donne-lui le temps.
Ben, tu sais, t'arrives d'un party, puis tu sais qu'il va y avoir de la bouffe, puis il va y avoir des affaires. Puis là, tu dis, comment je peux contribuer? Je ne sais pas quoi amener. Puis là, je vais amener un peu une coupe de bouteilles que j'ai, là, que je sais que c'est du bon stock, puis je vais amener une variété. Ouais. Je vais en amener un qui est plus tourbeux, un qui est un peu plus fruité, un qui est, tu sais, question de... Puis c'est un plaisir qui est le fun à partager avec des gens qui trippent là-dessus. T'sais. Les gens qui trippent là-dessus... C'est le fun de jaser de ça puis d'en goûter un. Puis on parlait à Billy Tellier tantôt. Ben lui, c'est un tripeux de scotch. Fait quand on travaillait ensemble pour son spectacle, ben c'était le fun avant le show d'arriver, boire une petite shot de scotch avant le spectacle. Ça, c'était un beau petit rituel.
C'est bien. Juste pour rire ou comédia?
Ah, mon Dieu! Hey, c'est dur à dire. Parce que je suis plus avec juste pour rire, mais... Je suis pas parti en chicane, tu sais, fait que... Tu sais, je suis pas... maintenant, j'ai pas le goût de choisir. Qu'est-ce que je dirais? Mais tu sais, juste pour rire, ça a été quand même 18 ans d'animation. Moi, avant cette année, là, j'avais participé à toutes les éditions de Juste pour rire depuis ma sortie de l'école de l'humour en 95. Pas nécessairement dans les galas, mais tu sais, déjà en sortant de l'école de l'humour, on faisait un spectacle, les finissants de l'école. L'année d'après, je faisais des shows dehors. Je faisais des 10-15 minutes, des demi-heures, des fois même. Après ça, j'ai fait un gala. Après ça, j'ai refait un gala, un autre gala. Après ça, j'ai animé un gala. Puis là, j'ai animé pendant 18 ans. Fait que mon historique avec Juste pour rire est... Comment?
J'ai pogné le 15e gala, moi.
Ah oui? Ben, tu vois, écoute, ça fait... Mais... Fait que c'est ça. Fait que l'historique avec Juste pour rire est pas mal plus important. Mais tu sais, maintenant que là, c'est ça, c'est un peu fini avec Juste pour rire. J'essaie, moi, d'envie de ne pas être nostalgique. Je vais dire comédia s'il faut que je choisisse, tiens.
Oui?
Oui, j'ai l'impression qu'en changeant de festival, j'ai retrouvé aussi une motivation, comme si je m'étais renouvelé. Ouais. Tu vois, là, ça fait, en incluant tous les galas Juste pour rire, puis le gala comédia, j'ai animé 19 ans des galas. Puis je pense que c'était dans mes meilleurs que j'ai cette année à comédia. Je pense assurément dans mon top 5 de mes meilleurs galas que j'ai animés.
Tes ouvertures, en tout cas, sont redoutables. Tu sais, moi, pour avoir... Puis en plus, moi, le lendemain, c'était le note. Là,
oui, c'est que, vrai. Ben, ça a bien été, vous autres, là, vraiment.
Oui, ça a bien été. Là, tu sais, somme toute, qu'après, tu sais, nous autres, le 19 août, on tournait le gala. Le 20 août, on se séparait.
Ouais.
Là, tu sais, il reste quand même que...
Oui. Ben, c'est ça. Mais là, vous étiez comme semi-séparés juste à... Vous avez fait le gala ensemble, mais...
On savait que c'était la fin, mais on était comme, il y a ce contrat-là nous unissait, puis nous unifiait. Anyway.
Unissait,
en tout cas. Mais reste que ça a été une expérience incroyable, puis j'ai adoré ça, puis tu sais, justement...
Tantôt... Vous avez été bon de réussir à dire, c'est fini nous deux, mais on est encore capable de travailler ensemble, puis de faire en sorte que ça soit bon. En tout cas, vous n'aviez pas l'air de gens en conflit, en tout cas.
Non, mais c'est ça, puis c'est aussi l'affaire qu'on s'était dit, puis là, mais je me rappelle qu'on avait eu une discussion, puis là, maintenant, je peux le dire, mais tu sais, j'avais fait « Hey, t'es actrice, là, Chris, joue-les, là, puis moi, les gens vont y voir que du feu, là, tu sais. » Fait qu'à ce temps, j'aurais regardé dans mon démo de jeu, moi, faire « Voici mon gars-là, on n'était pas ensemble, fait que Chris, je peux-tu jouer dans un film à ce temps? »
Ah, regardez la crédibilité que je viens de gagner, là. Mais c'est ça. Oui, mes ouvertures, ben, merci, je suis bien fier de ce que j'ai fait cette année, mais... Le bordel aide beaucoup. Là, premières années que j'animais, on écrivait un numéro, puis on le testait une première fois à la Valkyrie. Puis on faisait des correctifs, puis après ça, c'était le soir du gala. Puis, alors qu'aujourd'hui, si ça te tente, tu peux venir 20 fois. Puis avec toutes les soirées d'humour qu'il y a, à Montréal, tu peux tester, tu peux facilement faire ton numéro 20 fois avant de monter sur scène.
Et tu peux le faire 6 fois dans la soirée.
Ben ouais, c'est ça, effectivement. Moi, je ne cours pas les places pour être essoufflé et le faire. Mais le plus que j'ai fait, je pense que j'ai fait 4 shows dans une soirée.
Mais bordel 1, bordel 2, là.
Ouais. Non, ça, c'est facile. Écoute, c'est formidable, ça. Tu sors de là, après une soirée, ton numéro, tu es sûr qu'il est meilleur.
Ouais.
Même si tu n'as pas rajouté une joke dedans, après 4 fois, tu es tellement meilleur pour le jouer que ton numéro, c'est sûr qu'il s'est amélioré. Ouais, vraiment.
Chanson drôle ou chanson sérieuse?
Ça dépend chez qui. Chez moi, je dirais chanson drôle. Je pense que je suis meilleur pour les chansons drôles. Dans la vie, je n'écoute pas de chansons drôles. Je vais écouter des chansons plus... Je suis un gars qui écoute de la musique plus down. Mais en ce moment, tu vois, je dis ça, puis j'écoute les 3 accords en boucle dans mon char. Fait qu'on est loin... On est loin de la musique down. Quoique la toune Pâté chinois, c'est... moi, en tout cas, la première fois que j'ai écouté, elle m'a fait brailler.
Ouais.
C'est weird, hein? Quand tu penses qu'une toune dont le refrain, c'est « Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois », puis il répète 2 fois la phrase. « Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois ». Tu sais, comment ça fait que je suis ému à ce point-là? Je suis comme pas supposé d'être ému par
une
phrase.
Moi, les 3 accords, là, et quand je suis allé au festif de Charlevoix, c'était à Baie-Saint-Paul, festif de Baie-Saint-Paul.
Ouais.
Puis là, j'avais accès backstage, puis les Marjo qui ouvrait, puis là, j'écoute le show, puis... Je me suis rendu compte, là, le soir... Moi, j'ai toujours chanté la toune « Le bureau du médecin », comme « C'est drôle, nanana ». Mais cette toune-là, là, aucune joke, là. C'est mot pour mot, une histoire super triste, là, parce que c'est un beat funny, mais quand tu écoutes les paroles, t'sais... Puis là, à cette heure, toutes les fois que je l'entends, j'ai toujours super ému maintenant.
Lirais cette chanson-là, tu ferais « Ah, c'est triste
ouais. ».«
Parle-moi du mauvais temps, fais-moi penser à rien si je ressors en pleurant du bureau du médecin ». Tu sais, écoute, si c'est... Donc,
ah oui, non, c'est... Tout que la peau se porte sur les os, cette tabarouette, tout est, ouais. C'est super, super triste. Ouais.
Mais ouais. Pâté chinois, c'est pour moi, c'est la... Je pense que c'est la meilleure toune des 3 accords.
Ouais.
Elle a toute, cette toune-là. Elle a toute. Elle est parfaite. Et j'aurais aimé écrire quelque chose de même. Mais si j'avais fait ça, les gens auraient dit, on dirait que tu veux faire les 3 accords. Fait que il y a comme une façon... de dire des fois des choses qui sonnent un peu niaiseuses, comme ils font dans leurs chansons plus humoristiques, mais tu fais non, c'est touchant. Là.
Ouais.
Tu sens qu'il parle à quelqu'un, c'est un hommage. C'est-tu un hommage à sa mère? C'est-tu un hommage? Sa mère, es-tu mourante? Tu sais, tu t'inventes toute une histoire où tu penses à ta propre mère dans cette chanson-là. Tu sais, fait quand tu chantes « Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois », une belle portion d'amour, ça ne s'achète pas. Tu sais, il y a des phrases qui fessent bien, bien fort dans cette tune.
Je vais aller la réécouter parce que l'album, je me l'ai mis, tu sais, je suis allé me la Spotify. Puis là, tu sais, fait que des fois, ça joue, je ne vois même pas les titres. Fait que, ah, c'est bon, mais
ouais.
je vais me concentrer sur.
Mais celle-là, c'est la tune triste, la tune touchante, mettons. Elle n'est pas triste. C'est pas vrai qu'elle n'est pas triste. Elle est extrêmement émouvante.
La prochaine, ouais. Histoire de fille ou caméra café?
Histoire de fille. De loin.
Ouais.
Caméra café, j'ai fait 2 ans, puis c'était super le fun. Mais histoire de fille, c'était devenu une famille. Là. Tu sais, moi, j'ai joué ça pendant 5 ans. Puis à l'époque, quand on faisait de la comédie devant public, on répétait 2 fois. Donc, on avait 2 après-midi, mettons, de répétition. Ça durait autour de 3 heures. On plaçait les scènes, la mise en scène, puis tout ça. Puis après ça, le lundi suivant, on rentrait en studio. Fait qu'on passait la journée en studio à placer les caméras, à placer les répliques, puis à répéter. Puis après ça, le soir, on jouait devant du monde. Fait que moi, pendant 5 ans, j'ai vu du monde 3 fois par semaine dans toutes les circonstances. J'ai vu les enfants de l'une venir au monde, les enfants de l'autre. J'ai vu un tel malade, l'autre qui vivait des choses tristes. Tu sais, on s'est côtoyés de même 3 fois par semaine. Moi, à la fin, puis moi, je suis émotif. Moi, à la fin, là, quand on a fini la 10e saison, puis qu'on tournait le dernier épisode, j'ai braillé, là. La journée commençait, j'avais envie de brailler, tu sais. Je jouais mes répliques, puis il fallait que je me concentre pour pas brailler. Puis quand on finissait ça, puis on salue le public, je le précise, hein, c'est vraiment pas... Les gens, des fois, parlent de rire en canne, mais c'était vraiment du public qui était là,
public, ouais.
Qui riait, là. Puis là, on faisait notre dernier salut au public comme ça. T'sais, j'ai vu des images de ça, puis j'ai les yeux rouges, puis les larmes qui coulent. J'étais celui le plus émotif de la gang. Fait que c'est une de mes plus belles expériences à vie. Histoire de fille, je referai ça demain. Je travaille en ce moment sur un projet de sitcom. Puis même si les gens, les critiques snobent ça, les critiques n'aiment pas les sitcoms avec du public parce que pour eux autres, c'est dépassé. Mais moi, je trouve pas que c'est dépassé. Moi, je trouve au contraire que c'est les origines de la comédie à la télé. Puis tu joues devant du monde. C'est comme le entre le théâtre puis la télévision. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire.
La critique dira ce qu'ils veulent. Tu sais, Seinfeld puis Friends, c'est encore les deux émissions les plus écoutées, ces deux plateformes.
Hey, Big Bang Theory, je sais pas s'il y avait du public. Là, parce que des fois, ils font des sitcoms puis ils font écouter les épisodes à du public.
Ouais.
Après qu'ils soient finis de filmer puis tout. Comme, je pense, à How I Met Your Mother, c'était ça. Ils filmaient avec les décors comme une sitcom, mais ouais. Après... C'est le public qui visionnait les épisodes, qui riait, et là, il enregistrait ces rires-là. Je pense que c'est comme ça qu'il faisait. Mais moi, écoute, je deviens nostalgique.
C'est bien. C'est bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit c'est bien.
T'as bien le droit. Tu m'as encouragé. Tu valides mes émotions. Je trouve ça important de valider l'émotion des autres.
Gagner un Olivier ou gagner Cégep en spectacle?
Ah, oh, mon Dieu! Ah, Cégep en spectacle.
Oui.
Ouais, c'est parce que c'était énorme pour moi quand j'ai gagné Cégep en spectacle. C'était mon premier prix important et c'était dans ma tête énorme. J'étais un cégepien, j'avais composé des tunes niaiseuses avec ma guitare, puis je m'étais fait un personnage de Peace and Love avec j'avais des petites lunettes, j'avais des cheveux longs à l'époque, puis je mettais une chemise avec des grosses fleurs dessus, puis je rentrais de nu-pied sur scène, puis je chantais des chansons d'amour qui n'avaient pas de bon sens. Puis ça avait marché, puis j'avais eu des gros rires, puis j'avais gagné la finale nationale, puis c'est comme la première fois de ma vie que je gagnais quelque chose de gros, puis que je me disais « Ah, mon Dieu, je suis peut-être pas si mauvais. » Fait que ouais. Les Oliviers, après, ça fait plaisir aussi, évidemment. Mais l'impact que ça a eu sur moi, c'est Cégep en spectacle.
Parfait. Le bye-bye ou le gala des Jutras?
Le bye-bye. Le gala des Jutras, j'ai eu du fun, par exemple. J'ai travaillé avec Pénélope, que j'ai trouvé a été super. Ça a été le fun de travailler avec elle. Mais tu fais un show devant des gens qui ont... sont hyper... C'est un des pires publics devant lequel j'ai joué. Puis c'est pas pour les dénigrer. C'est pas... Individuellement, il y a personne qui est méchant là-dedans. Mais ensemble, ça fait un asti de public fret. puis les bye-bye, ben qu'est-ce que tu veux? J'ai fait Denis Coderre, j'ai joué Philippe Couillard, puis j'ai beaucoup aimé ça. J'ai découvert que j'avais un talent pour jouer des personnages caricaturaux un peu. Puis que quand j'en faisais un, que je l'imitais, entre guillemets, là, on y croyait, tu sais. J'ai pas la voix de Denis Coderre, mais quand j'avais ma petite prothèse pour le nez avec les petites lunettes puis la perruque, j'avais remarqué que Denis Coderre, il avait la bouche croche un peu. Quand il voulait faire homme du peuple, il roulait ses airs, fait que mon personnage parlait de même. Puis quand on le voyait, on y croyait à Denis Coderre. Ouais. Fait que j'ai bien aimé ça. J'ai beaucoup aimé mon Philippe Couillard avec la barbe. C'est des beaux souvenirs.
Balou ou le castor de Belle?
Ah, Balou. Le castor, c'était le fun. Le castor aussi, c'était le fun. C'est juste que Balou se rapproche plus de ce que j'ai le goût de faire dans la vie, c'est-à-dire un film et tout ça. Le castor, ça a juste mal fini. Ouais. On avait commencé avec des personnages un peu audacieux. Tu sais, on faisait même référence à des affaires un peu... edgy, je trouvais, là, tu sais, le fait qu'on était deux hétéros. Tu sais, on faisait référence au fait qu'on avait une relation semi-ambiguë, lui puis moi, les deux castors. Tu sais, je trouvais que c'était audacieux. Puis le concept aussi, c'est qu'on avait eu le contrat parce que Grégory Charles avait dit non. Tu sais, c'était comme weird de faire une pub où les deux porte-parole assument qu'ils ne sont pas le premier choix parce que Grégory Charles ne voulait pas. Fait que, tu sais, c'était très drôle. Mais à la fin, c'est Belle a changé de main, puis c'était devenu... les pubs étaient toutes écrites en Ontario, en anglais, d'abord et avant tout. Fait qu'on faisait juste la traduction. Puis on était juste devenus des diseux de marque. T'sais, mon personnage faisait juste dire « Oh, j'ai acheté le nouveau katana! » Puis je faisais juste nommer des marques de téléphone puis dire des forfaits. Puis c'était devenu ben stock-up. Aussitôt que mon personnage était trop niaiseux, on faisait « Non, il faut pas qu'il soit trop niaiseux. Ah, l'autre, il est trop méchant avec lui. Là, tu sais, on veut pas qu'il soit trop méchant. » Fait qu'on était devenus deux mascottes plates qui disaient des marques de téléphone. Puis ça, j'avais trouvé ça bien dommage que ça finisse de même.
Je t'aime ou les caprices de Laurent?
Oh, Seigneur! Hey, je vais dire « Je t'aime ». Même si les caprices, c'est drôle. J'ai du fun en esti à faire ça. Ah ben c'est comme deux facettes de mon humour qui sont complètement à l'opposé. Mais je t'aime, c'est parce que dans ma tête, à moi, c'est un potentiel de série télé avec des personnages attachants, mais vrais. Puis j'avais l'impression de proposer quelque chose de vraiment... Même si ça ne réinvente pas la roue, j'avais l'impression de présenter quelque chose de différent. T'sais. Je faisais un couple, mais c'était pour la première fois, je dirais, à TV, c'était un couple, mais l'humour n'était pas basé sur « Ah, maudit qu'on ne se comprend pas. Ah, les femmes, on ne vous comprend pas. Ah, les hommes, vous êtes donc immatures. Ah, les femmes, vous êtes donc contrôlantes. » Ce n'était pas cette dynamique-là. On n'était pas du tout on n'était pas dans le cliché de la femme un peu hystérique et contrôlante, puis le gars macho, puis épais. Tu sais, je trouvais qu'on allait dans quelque chose. En fait, c'est peut-être juste parce que je voudrais rejouer avec Geneviève Allary, qui jouait ma blonde là-dedans, puis qui était formidable. Je ne veux rien enlever à Simon Delisle, mais il est beaucoup moins, il est beaucoup moins sexy. Mais l'autre, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, là, les caprices de Laurent, vu qu'au début, on se disait ça ne passera jamais à TV. De toute façon. Fait que, tant qu'à faire de quoi que les TV ne voudront pas, aussi bien faire de quoi qui, anyway, ne passerait pas à TV. Fait que mon personnage sacre, il envoie chier du monde, il dit, il haït Ricardo. Aussitôt qu'il y a une occasion de parler de Ricardo et de dire cet asti-là, on ne sait pas pourquoi il haït Ricardo, mais il l'haït. Puis, tu sais, c'est jouissif de jouer. On a fait une capsule là, qui n'est pas sortie encore, mais qui va sortir avec Francis Redé, qui fait un special guest dans l'épisode. Puis moi, je commence la capsule, puis lui, il veut intervenir, puis moi, j'y coupe la parole en disant « Attends! » Puis là, je reprends ma phrase, puis lui, c'est formidable. C'est une formidable affaire.
Une émission couleur ou Debout Montréal?
Debout Montréal. J'aimais ça faire ça. En fait, j'ai préféré l'émission. On avait un nom juste avant. Ça s'appelait Lève-toi et marche. Okay. Quand je suis arrivé à C'est quoi, on avait commencé à faire une émission du matin. Le titre, c'était Lève-toi et marche. Je dirais que ma première année de radio le matin, c'est pas mal ma préférée. L'émission couleur, Radio-Canada, c'était une émission qui était... j'étais trop inexpérimenté. Puis on a été pendant tout l'été la tête de Turc de Louise Cousineau, qui était critique à la presse. Et puis la presse, écoute, ça a été rough parce que c'était quasi quotidien, en fait. C'était une époque où les critiques pouvaient décider qu'il haïssait un show, puis en parlait quasiment à toi et Chris de jour, puis elle faisait de la radio en plus. Fait qu'elle parlait de nous autres à l'émission de Paul Arcand le matin, puis c'était toujours pour dire que c'était mauvais. Puis, fait qu'elle avait sa chronique dans la presse, plus la radio. Je ne sais pas si aujourd'hui, il pourrait refaire ça. Je pense que ça ne se fait plus, ça. J'ai jamais revu ça chez un critique de dire « On va prendre une émission, puis on va tapocher dessus. » Tu sais, c'était l'équivalent de Piment fort, mais version critique contre une émission. C'était du bullying. Madame Cousineau, c'était du bullying. Carrément. Elle pouvait te parler d'une émission de jardinage, puis quand même trouver une façon de ramener ça pour te parler de l'émission, une émission couleur. Fait que ça a été un été assez, assez pénible. Parce que tous les matins, on se relevait puis on préparait une nouvelle émission. Puis ce que je trouvais poche, c'est que les gens qui ont aimé l'émission, ils en ont parlé, mais une fois, tu sais. Les gens qui aiment l'émission, ils le disent une fois, puis après, c'est fini. Les gens qui haïssent, ils ont le droit, eux autres, de dire à tous les jours qu'ils haïssent ça. Fait que ça a fait comme un été... parce qu'il y avait des bonnes affaires dans cette émission-là. On était, Chris, la seule émission qui jouait de la musique québécoise. on recevait des chanteurs, puis ils faisaient deux tonnes au complet. On leur passait pas le générique d'en face à la fin de la tonne. On donnait de la visibilité à la culture au Québec. On avait des tableaux, on avait des toiles, des peintures qui étaient accrochées. On donnait de la visibilité à des artistes en art visuel aussi, tu sais. Mais il y avait des affaires d'humour qui n'étaient pas au point. Des humoristes qui n'étaient pas connus, qui faisaient des sketchs. Puis des fois, moi, je trouvais ça so-so. Fait que, c'est une émission qui était imparfaite, mais jamais autant que ce que les critiques disaient, à mon avis. Puis si on avait fait une deuxième saison, on aurait corrigé bien des affaires, tu sais.
Ben oui,
je te fie pareil. C'est juste que c'est pas un beau souvenir à cause de tout ça.
Laurent, c'est la dernière question des rafales. Après ça, il nous reste 3-4 questions. Mais cette question-là, c'est toujours la question où je rappelle aux gens que Yann est un peu seul ou consomme, on ne sait pas. Mais Laurent, soit que chaque fois que tu vas à la salle de bain, ton alarme d'incendie part ou chaque fois que tu sacres au volant, ton téléphone appelle le 911.
Ah ben je vais dire c'est le deuxième. Chaque fois que je sacre, je pense que je serais capable d'arrêter de sacrer.
OK.
Je me trouverais d'autres mots.
Je comprends.
Gériboire, Géritol de Saint-Cyphry de clé à molette de
Géritol, je pense, c'est Étol. C'est Étol qui est la
Ouais, mais Géritol, je pense que c'est une marque de médicaments dans les années 60, une affaire pour les personnes âgées, ouais. Ou une crème pour les muscles. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un vieux médicament, Géritol. Je pense.
Laurent, c'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si tu en as une?
Je n'ai pas de phobie dans le sens là, de peur irrationnelle, là, tu sais. Mais de peur, qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur de mourir, mais que ça soit long.
Ouais.
Je préférerais mourir plus tôt, d'une shot, que de mourir plus tard sur sur du long terme. Tu sais, tu meurs, mais petit à petit, là, à tous les jours, pendant un an, deux ans, ça doit être épouvantable. Les gens on connaît des gens, des fois, qui le vivent, puis c'est épouvantable pour eux et pour l'entourage. Fait que non. Moi, j'aimerais ça mourir à 99 ans, frappé par un train.
Bon, ben, hey, je te le souhaite.
Je te le souhaite! T'es fin, man.
C'est quoi pour toi le bonheur parfait?
Le bonheur parfait, c'est c'est un souper avec des gens que j'aime. Un bon souper avec des conversations faciles, avec du bon vin, puis de la bonne bouffe, puis surtout, des gens que j'aime. Ouais, ça va être ça le bonheur parfait.
C'est bien, en parlant de gens que t'aimes, si on va, qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi?
Ah mon Dieu, qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? j'ai pas de pire ennemi, mais mettons sur la terre, là, les gens que j'haïs le plus, il n'y a pas grand-chose que je leur souhaiterais pas.
Ça, j'aime ça. Ça, c'est une vraie bonne réponse. Ah, mais tu sais, je veux quand même pas... Non, Chris, c'est ton ennemi. Là,
moi, mettons mon pire ennemi. Mettons, on dit Vladimir Poutine ou le président iranien en ce moment, là, tu sais, qui réprime les manifestations. En ce moment, je te dirais, il n'y a rien que j'y souhaiterais pas, à part les bonnes choses.
Ouais.
Pour le reste, là, Poutine, même si on dit, on dira ce qu'on voudra, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Poutine qui meurt, pour vrai, je suis obligé de le dire, pour être complètement honnête, non seulement ça ne me dérangera pas, mais je vais avoir l'impression que pour moi, c'est comme si Hitler mourait. Ouais. À un moment donné, tu peux pas dire non, mais ça reste un humain. Non. On s'en fout de ça.
On a dépassé ce niveau-là.
Il y a des humains, il y en aura d'autres pour le remplacer. Là. C'est des humains, on est assez nombreux. On peut se débarrasser d'un trou de cul comme ça, selon moi.
Selon toi, encore une fois, c'est quoi ta plus grande épreuve que tu as vécue à ce jour?
La mort de mon père. C'est probablement c'est la plus grande épreuve que j'ai vécue. Je l'ai vécue, ça va faire 30 ans cette année. En 23, donc très bientôt, ça va faire 30 ans qu'il est mort. Puis je n'en suis même pas encore complètement remis. Fait que tu sais, les gens qui vivent un deuil en ce moment, là, ça va passer, mais je vous le dis, là, pensez pas que vous allez vous en remettre complètement. Un jour. Moi, ça fait 30 ans, puis je repense à lui, puis je repense à... C'est ma plus grande épreuve. Mais à tous les niveaux, tu sais, je perds mon père, je le perds, il est bien trop jeune, il a 49 ans. Moi, je suis trop jeune pour perdre mon père. J'avais 21, genre. Puis, ouais. Puis là, évidemment, comme, voyons, je suis ben trop jeune. Il est ben trop jeune. On ne s'est pas dit le centième de ce qu'on était supposé de se dire dans notre vie. On n'a pas vécu le centième de ce qu'on était supposé vivre ensemble. Fait que, tu sais, c'est tous les regrets. Tu sais, tout là, Chris, oh, je n'y ai jamais dit je t'aime. Ah, quand j'étais ado... Je m'intéressais plus à mon... Tu sais, quand t'es ado, tu t'intéresses pas à ton père. Fait que là, quand je suis devenu adulte, là, puis là, que je recommençais à m'intéresser à mes parents, bouf, mon père meurt, tu sais. Fait que quel timing de marde, tu sais. Fait que c'est, ça a été plein d'affaires qui font que ça a été ma pire épreuve à traverser.
Puis, tu dis ça, c'est mon grand-père. Il est parti, ça fait 30 ans l'an dernier. Puis là, cette année, là, j'ai l'âge de mon père... Quand mon grand-père, là, si je suis dans mon année, là, est-ce qu'elle passe celle-là, là, tu sais, que là,
Là,
je vois mon père, puis je suis comme, il a l'âge de son père, j'ai l'âge de mon père, là, je suis dans une année, est-ce à toutes les fois que maison, famille appelle, là, je suis comme, oui?
Non, oh, ça non. Va? Ah non, oui, de la part, avec le point d'interrogation un peu inquiet à la fin, oui?
Chaque fois, j'ai insulté le nerf, là, fait que, ouais.
Ben, moi, mon père est mort à 49 ans, mais genre, 3-4 jours avant d'avoir 50. Il allait avoir 50. Je pense qu'on l'a enterré le jour de ses 50 ans, c'est pour te dire.
Ah oui.
Fait que moi, quand j'ai eu 49 ans, j'ai vécu l'année au complet en me disant... évidemment, je ne pensais pas que j'allais mourir. Mais tu sais, l'idée me traversait la tête tout le temps. J'étais toute cette année-là, je l'ai vécu en me disant je peux mourir. Père est mort. Mon père est mort à cet âge-là, puis topé 50 ans, ça a comme été une petite victoire, parce que j'ai dépassé mon père. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas vécu la cinquantaine difficilement, parce que dans ma tête, c'est si je me suis rendu à 50, ça voulait dire que j'ai dépassé mon père. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai l'impression que je dépasse mon père d'une année de plus à chaque année. Puis j'ai réalisé, c'est un choc. Là. J'ai réalisé, là, j'ai des photos, mettons, de mon père. Puis je dis, mais à partir de maintenant, toutes les photos de mon père est plus jeune que moi.
Ouais.
Là-dessus, mon père n'a jamais été aussi vieux que je le suis. C'est fou. Parce que ces photos, il a l'air toujours plus vieux que moi, à mon avis. Là. Nos parents ont toujours l'air plus vieux. Mais autrefois, les gens avaient l'air vieux.
Ouais.
Même jeune, il y avait l'air des futurs vieux.
Il y a de quoi avec notre cerveau quand même aussi, parce que, tu sais, mettons, puis là, je ne vais pas juste tout le temps ramener Friends, mais moi, j'écoute les Friends pas mal tout le temps en boucle. Tu sais, ça joue dans le fond. Puis en ce moment, je suis plus vieux qu'eux autres dans l'écran. Je suis toujours comme, mais Ross et Jennifer Aniston sont plus vieux que moi. T'sais. Mais non, asti, ils sont plus vieux dans la vie, mais pas dans l'émission. Là.
Ah oui, dans l'émission, ils racontent les anniversaires quand ils ont passé la trentaine. Oui.
J'ai 10 ans.
Le jour où tu réalises que dans la Ligue nationale, tu seras à ta retraite, c'est un choc, ça aussi. Tu sais, quand tu es jeune, tu vois les joueurs de hockey comme des gens au-dessus de toi, plus vieux que toi. Puis là, à un moment donné, ils ont ton âge. Là. Puis à un moment donné, c'est tous des petits jeunes. Là, à mon âge, il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui a mon âge. À moins que Jagger, il y aurait Jagger peut-être là, s'il était encore là, mais sinon, oublie ça, là, c'est fini. Là. Moi, c'est tous des petits jeunes.
Il reste encore Jumbo Joe, là, Joe Thornton, qui est comme 40 kecs, là.
T'sais, lui, on aurait des mêmes références si on avait grandi les deux au Québec.
J'ai rencontré Cole Caulfield là, sur une émission de télé, puis j'étais asti. Puis là, moi, fini de Cole Caulfield. J'ai 18 ans de plus que Cole Caulfield. Là, j'étais comme, asti, peux-tu croire?
Pour lui, t'es un monsieur.
Ah oui. Moi, j'y parlais comme mon égal, mais en même temps, je sais, ben non, si t'es tellement...
Plus ça, pauvre que lui.
Ouais, oui, il y a plein de choses.
T'es tellement...
Il y a tellement des meilleures jambes. Il y a plein d'affaires qui sont meilleures que moi.
Ouais. Mais il est moins bon raconteur, je suis sûr.
Ah, ça, je sais pas. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier fou rire?
Fou rire, là, tu sais, genre incontrôlable.
Ouais. Ou un bon, du moins.
Hey, ça devait être sur un tournage. Ben, tu sais, je travaille avec... je tournais sur Le Bonheur, l'émission de écrite par François Havard puis Daniel Gagnon avec Michel Charette. Ouais. Michel Charette, qu'est-ce que tu veux, des fois, il me faisait rire. Des fois, c'était dur de garder le sérieux. Fait que des fois, je décrochais. Mais un vrai fou rire incontrôlable, là, mettons, qu'il n'y a plus rien à faire, là, ça m'est arrivé en impro surtout.
Ouais.
Ah, ben, mettons, à histoire de fille. Il y avait un épisode où le personnage de Pascal, mon petit, arrivait, elle s'appelait Sophie. Puis moi, je faisais du yoga avec elle. Puis là, je rentrais dans la scène. Puis là, je disais, hey, elle est vraiment cool, Sophie. Puis j'avais mes pantalons de yoga, genre de collant, là, tu sais, genre de...
Des leggings, ouais.
Des leggings, ouais, c'est ça. Puis là, j'avais réalisé en coulisses que les leggings, je pouvais les monter, tu sais, jusqu'ici. Puis là, je m'étais dit, ah, oh, pendant la scène, je vais parler, puis je vais les monter. Je vais les monter jusqu'ici. Ça va les faire rire. Moi, dans ma tête, je voulais faire décrocher Guy Jodoin puis Nathalie Mallette. Ouais. Puis finalement, juste de le faire, ça me faisait rire, moi. Fait que je n'étais pas capable de pas rire.
Ouais.
Fait que je parlais, puis je décrochais, puis personne ne comprenait pourquoi je riais autant. Puis ça a été là, assez pour que l'amateur en scène soit un petit peu fâché après moi. Parce que là, à un moment donné, ouais. Tu fais, « Ah, Chris, là, c'est long, là. On a une journée, on a encore des scènes à tourner, puis je riais, puis je n'étais pas capable. » Puis au moment où j'ai réussi à dire ma réplique au complet, c'est Guy Jodoin qui a fait, « Je ne sais plus où on est rendu.
Ben » ouais,
parce que lui-même, je l'avais épuisé, là, tu sais, il avait complètement décroché. Fait que, ouais. Mais sinon, en impro, des fous rires, ça me fait... C'est tellement le fun, un fou rire. Qu'est-ce que c'est le fun?
Ah, c'est le fun quand ça part, là, ça fait... C'est du bonheur, pur.
C'est, ouais, c'est ça. C'est comme un bonbon, un cadeau de la vie.
La prochaine question, je le dis tout le temps, je l'ai volé dans l'émission RuPaul's Drag Race. En fait, c'est à toutes les finales, ils montrent une photo de la personne jeune, puis ils disent, si t'avais la chance de te rencontrer toi-même jeune. Fait que Laurent, si tu rencontrais le jeune Laurent, tu lui dirais quoi?
Ah, je dirais qu'il est meilleur qu'il pense. Je dirais qu'il est plus intéressant qu'il pense. Qu'il est plus intelligent qu'il pense. Je dirais pas mal d'affaires.
Ouais.
Ah oui, mon Dieu, je travaillerais sa confiance en lui. Je dirais, là, tu vas me ranger ça, ces petites insécurités stupides-là. Là. J'ai toujours manqué de confiance en moi, plus jeune. Puis je te dirais que c'est une affaire que j'ai corrigée dans les 5-10 dernières années. Tu sais, c'est quand même relativement récent que j'ai confiance en moi. Tu sais.
Ouais.
Fait que, ouais, c'est ça. Je dirais une telle à trip sur toi, là. Fait que, déniaise! Est-ce que c'est loser? C'est peut-être ça que je me dirais.
Ah, c'est bien. Ça a été quoi ta découverte cette année? Y a-tu une personne, une œuvre, une chanson? Y a-tu quelque chose qui fait ça pour que les gens découvrent ça?
Ah, je vais y aller dans notre domaine. Je te dirais Megan Brouillard.
Mais oui.
Comme humoriste de la relève qui a, elle a quoi, 23 ans? 24? Ouais. Elle est jeune.
Elle est 23.
Est vraiment, vraiment toute jeune, mais elle est solide, comme si elle faisait ça depuis 15 ans. Puis elle est drôle, est intelligente, est à l'aise. Moi, comme humoriste, là, en ce moment, c'est mon gros coup de cœur. Grosse découverte. Elle est formidable.
Oui, je l'ai découvert, moi, au Festival d'humour à Val-d'Or. Elle faisait le concours cet été, c'est moi qui animais. Puis même chose, gros coup de cœur. Puis je l'ai reçu voilà deux semaines sur le podcast.
OK,
vraiment,
OK.
Elle est super, super. Fait que, puis d'ailleurs,
elle a l'air d'avoir une tête sur ses épaules aussi.
Ah, oui.
Parce que moi, je prédis que cette fille-là va être une star de l'humour.
Oui.
Moi, je pense que ça va être un des très gros noms de l'humour. Si elle travaille vraiment là, comme elle travaille là, déjà, elle travaille vraiment fort. Là, elle a un talent fou, mais en plus, elle travaille. Puis en plus, elle écrit. Puis elle est créative. Puis tu sais, moi, si elle est bien encadrée, puis qu'elle a les... Ça va sonner tellement quétaine. Les valeurs à la bonne place, ça va être écœurant ce qu'elle va vivre.
Ah, je pense que oui, ouais. elle me fait beaucoup penser à, tu sais, mettons, intelligence émotionnelle, un Sam Breton, là, c'était déjà une vieille âme, là, tu sais.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Bonne famille, bonne, tu sais, je pense que... Non, je
suis pas... Ouais, une bonne personne que même avec des oliviers, elle va quand même rester chum avec ses amis du secondaire, puis que,
ouais.
Tu sais... Ouais, c'est ça, on veut ça. On veut quelqu'un là, qui ne fait pas chier.
Laurent, la prochaine question, qui est l'avant-dernière question, c'est la question de mon invité d'avant sur le podcast,
était
Christophe Dupéré, qui est rendu un animateur régulier au bordel, qui fait les premières parties de Phil Roy.
Christophe,
la question est la suivante, c'est une question de tournée. Laurent, en tournée, est-ce que tu t'installes à l'hôtel, mets-tu ton linge dans les tiroirs et sur les cintres?
Non, jamais! Jamais, c'est rare que je vais à l'hôtel plus qu'une nuit aussi. Là, fait que, ouais. Remettre les choses, non, ça ne servira à rien de faire ça, en fait.
Ouais.
Le plus que je peux faire, ça va être 2-3 nuits à l'hôtel. Non, même chez nous, j'ai de la misère à mettre mon linge dans le tiroir. Fait que je ne commencerai pas à faire ça à l'hôtel. Non, je ne m'installe pas.
Il a quand même envoyé une sous-question que j'ai aimée. Ouais. Est-ce qu'il amène son propre savon à l'hôtel?
Ah oui. Des fois, j'oublie, mais ce n'est pas une obsession. Ouais. Mais en général, oui. J'aime bien avoir mon propre savon. J'ai mon petit kit pharmacie dans un sac avec du shampoing, la brosse à dents. Puis,
est-ce que c'est un sac Odyssène?
J'en ai. On en a tout un, hein? On en a tout un, mais ce n'est pas celui que je trouve le plus pratique. Fait que, ouais. Des fois, c'est lui, des fois, non.
OK, parfait. Et c'est à ton tour, Laurent. On termine comme ça. C'est à ton tour de poser ta question à mon prochain invité.
Je sais, sera tu sais qui?
Martin Perizzolo.
Martin Perizzolo! Hey, qu'est-ce que je pourrais demander à Martin Perizzolo?
Hey, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être... C'est quoi ton mets préféré? Si tu avais un char à avoir de plus, ça serait lequel? Tu sais, il n'y a pas de mauvaise question, là.
Hey, j'aimerais avoir son meilleur et son pire souvenir de l'École nationale de l'humour.
Oh, wow!
Parce qu'on a été à l'école en même temps.
Grosse année, lui, en plus, là.
Oui, on avait une grosse année cette année-là. Là. Tu sais, c'est l'année de Mike Ward, Martin Matt, Julien Tremblay, les Chicken Swell, moi, Perizzolo, Guy Lengue.
C'était un an, fait que t'étais pas une année au-dessus, vous étiez dans la même année.
On était dans la même année. Nous autres, ouais. C'était trois sessions, puis la troisième session, c'était la tournée, la session d'été. Donc, on faisait une... Puis on n'avait pas tant de shows, je pense, on avait une quinzaine. C'était pas énorme, en tout cas, mais bref. Okay. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, souvent, après plusieurs années, tu reparles aux gens, puis tu réalises qu'ils n'ont pas les mêmes souvenirs ou qu'ils n'ont peut-être pas trippé autant que tu pensais. Je serais curieux, ben, son meilleur souvenir et son pire souvenir de l'école de l'humour.
C'est wow. Quoi? Hein? Toi, t'en as-tu un meilleur puis un pire? J'avoue là, que je repousse la note, là, mais.
Meilleur souvenir de l'école de l'humour. Ben, moi, c'est à l'école que j'ai compris que je pouvais faire ça dans la vie.
Ouais.
Moi, avant, là, je pensais que j'avais pas le talent, ben, que j'avais pas la discipline pour écrire à tous les jours. Puis à l'école, t'es obligé d'écrire. Puis en étant obligé d'écrire, ben j'ai écrit puis j'ai réalisé que, Caroline, je suis capable. Fait que, ouais, la discipline que ça m'a donnée, l'obligation d'écrire, sans ça, je suis sûr que je n'aurais pas fait ça dans la vie. Ouais. Tu sais, je ne dis pas qu'il faut l'école pour faire ça dans la vie, mais moi, sans l'école, je suis pas mal sûr que je ne ferais pas ça dans la vie. Ouais. Puis le pire souvenir de l'école, le pire souvenir, j'ai été en conflit avec d'autres élèves de ma classe, mais en le sachant pas vraiment que j'étais en conflit. J'ai comme appris que, il a dit ça. Ah ouais. OK, moi, tu sais, j'étais un peu innocent aussi. Puis, tu sais, tu l'apprends après. C'est un peu poche.
Ouais.
Des choses qui ont été dites sur moi. Il y a une rumeur comme quoi j'étais gay. Qui a circulé. Ah? Ouais. Moi, ça ne me dérange pas qu'on pense que je suis gay, mais même que je m'entorche. Mais dans ma tête, ça a fait pourquoi quelqu'un a dit ça?
Ouais.
Dans la mesure où j'avais une blonde puis que c'était connu. Puis tu sais, c'est-tu juste un désir de me nuire? Tu sais, je veux pas tomber dans paranoïa, mais tu sais, des petits conflits qui étaient des conflits humains de compétition quand tu es jeune humoriste aussi. Puis tu vois les autres, puis tu veux faire mieux que les autres. Puis là, tu sais, tu fais des commentaires, puis des fois, les gens les prennent mal. Puis là, tu penses que, tu sais, ouais, des petits conflits humains là, qui auraient pu être mieux gérés que ça. Probablement.
Merci, Laurent, infiniment.
Ah, j'ai bien fait ça. Temps. J'ai pas dit de non. J'ai pas réglé de compte.
T'as bien fait. Puis pour terminer, je dis toujours ça aux gens. As-tu quelque chose que tu aimerais plugger? As-tu quelque chose qu'on écoute, qu'on consomme, qu'on achète, qu'on va voir de Laurent Paquin?
Ah, écoute, moi, cette année, ça va être une grosse année parce que je reprends mon personnage de François Pignon dans le Dîner de cons. On va être en tournée pas mal.
La pub à TV, là, je le vois, là.
Ah oui, ça joue à TV?
Oui, ben, il y a la pub à TV.
Je sais que là, on va jouer bientôt au Théâtre Saint-Denis, mais après ça, on va être à Québec, à l'Assomption. On va se promener pas mal, tu sais, le Dîner de cons, on va se promener. Puis entre tout ça, ben, je rode mon nouveau one-man show. Fait que là, tu vois, mettons, là, très prochainement, je vais être au bordel pour faire un 60 minutes, mais dès le début de 2023, je vais commencer à faire des plus petites salles pour faire du rodage. Ça va être des shows officiels de rodage de mon cinquième one-man show. Fait que surveillez ça, allez voir sur mes médias sociaux. Moi, je suis sur Facebook, Laurent Paquin, la page officielle. Sur Instagram, Laurent.Paquin. Même chose sur TikTok. Écoute, je suis partout.
Partout. Hey, merci Laurent. Je te passe le générique d'en face. Oh, ça part raide. Fait que t'as-tu un mot de la fin avant que je passe sur Enter?
Zitom.
Yes!